Vous écoutez
RMC.
RMC.
Attends, laisse-moi terminer. Kevin, quand je parle, s'il te plaît.
Alors, vas-y,
tu mets une tension, tu mets une pression sur le débat. Viens, on parle tranquillement. J'arrive pas à parler déjà.
Ce qu'on peut faire aussi, c'est genre de la conjugaison. Genre conjuguer le verbe rester ou le verbe s'entraîner ou le verbe courir. Je courirai la prochaine fois. Voilà.
Balotelli, Aguero.
We never knew in football, you see, it was really close the last second. Like I said before, in a way, it's the best way of winning the league, you know, last second of the game, in front of a fan, and it's a day to be remembered forever, because first title.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Et bonsoir à toutes et à tous. Génération After, comme tous les soirs RMC, 20h-22h. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast, toi qui nous regarde sur After Foot TV. Et ce soir, autour de la table, Walid Descherchours. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Jimmy Brown est là également ce soir. Salut Jimmy.
Salut Nico, bonsoir tout le monde.
Le Louis Campos du Val-de-Marne est là aussi soir. Kevin Diaz est là.
Salut à tous.
On va pas chaque semaine faire
arrêter,
un point.
Encore une victoire ce week-end.
Leader National 2.
Ouais. Seul leader. Moi j'étais honoré d'être à côté du co-leader. Là je suis à côté du seul, en face du seul leader de National 2. À 10 points.
La fusée est lancée.
On va arrêter d'en parler.
Où est-ce qu'on va l'arrêter?
Les gars, ce soir, on est ici un homme qui a une petite carrière au plus haut niveau. Triple champion d'Angleterre, deux coupes de la Ligue anglaise, champion de Turquie, ça a pu échapper à certains. Élu meilleur latéral gauche de Première Ligue en 2008, 20 sélections en équipe de France. Gaël Clichy dans Génération After. Salut Gaël.
Salut la team.
On est très heureux
de t'accueillir. Honoré de ta présence.
Ah ouais, très content, on va se régaler. On s'est régalé avec Samir il y a quoi, deux semaines maintenant. On va aussi raconter ta carrière dans la deuxième heure de Génération After. Plein de questions. Le coach que t'as fait plus progresser, l'adversaire le plus coriace, le coéquipier le plus dingue. On va, ton histoire, on va la raconter bien sûr, de Toulouse, près de Toulouse, jusqu'à Arsenal, City, bien sûr, Turquie et le Servette de Genève, où tu as fini ta carrière. Ce soir également, on va parler, tu vas te mêler au débat du rassemblement de l'équipe de France. Pensez-vous que les Bleus progressent après ce mois de septembre? Kevin, toi, t'es résigné. Tu vas nous dire que tu n'attends rien des Bleus sur le plan du jeu, sur le plan tactique. 20h30, cette question, êtes-vous séduit par le nouveau Kylian Mbappé, plus ouvert, plus altruiste, plus capitaine sur ce rassemblement? Et donc, à partir de 21h, ton regard, Gaël, sur l'évolution du foot et des joueurs. Quel est le coach qui t'a le plus marqué? Je le disais à l'instant. On a beaucoup de questions à te poser dans cette émission ce soir sur RMC 32-16 pour nous appeler, poser vos questions à Gaël qui répondra. Le numéro WhatsApp, vous le connaissez désormais, 0612 424 424. Et puis je vous rappelle qu'on est en direct également sur la chaîne YouTube de l'After. Avant de passer la main à 22h à Gilbert, bonsoir Gilbert.
Salut les gars. Kylian Mbappé fait aussi débat dans l'After. Chez vous dans Génération After. Et oui, tout le monde se pose la question alors que c'est le MJDM, tu sais bien Walid, donc je comprends pas.
Mais enfin bon, il y a une
t'as déposé ou pas le...
Non, mais ça commence à prendre.
Personne n'a fait de t-shirt encore.
Ça commence à prendre.
J'en veux pas en tout cas de ce t-shirt.
Et c'est incroyable comment il n'aime pas Mbappé celui-là, Kevin, je comprends pas.
Je précise pour Gaël, MJDM c'est le meilleur joueur du monde. Hein.
Voilà. Ouais.
Gilbert est convaincu depuis plusieurs saisons que c'est le meilleur joueur du monde.
Même quand il ne l'est pas, il le dit quoi.
Voilà.
C'est ça le problème de Gilbert.
Moi je suis pas. Je suspecte Gilbert de faire du marketing avec
ça. Oui, bien sûr.
Effectivement, il y a un mug un jour, il y a un t-shirt.
Business.
Il y a un biz. De toute façon, derrière Gilbert, il y a
un call. J'ai un call avec Faizad.
Un kebab.
Un food truck.
On va débattre, effectivement, parce que ça va être la grande saison. Peut-être qu'il va rentrer définitivement dans l'histoire du football, au-dessus de Pelé, de Maradona, de tout le monde, s'il gagne la Coupe du Monde. Allez savoir.
Ça, c'est vrai.
Bon, on va en tout cas débattre tout à l'heure, parce qu'il y a plein d'infos et avec l'interview qu'il a donnée, plus les réactions les uns les autres après le match hier soir. Et puis, on a un Pierre Dorian en feu sur Kylian Mbappé aussi dans le Moscato Show. On va lui répondre dans l'after. Le point également sur ce qui se passe à la Ligue. Joseph Ogourlian était avec nous il y a 48 heures. Aujourd'hui, il y a eu des votes importants au conseil d'administration qui pourraient changer la donne dans les semaines qui viennent. On fera le point. Et puis, l'OM au programme de l'after parce que les recrues vont pouvoir enfin jouer là. Ça y est, nouvelle OM qui arrive dans les jours qui viennent. D'autant que ce soir, vu que c'est la 20e année de l'after, on a quelques anciens illustres d'after qui viennent. Ce soir, Jean-François Pérez sera de retour. Et oui.
Ah oui,
le grand l'ancien. FPRS.
C'est l'ancien.
Ça, c'est l'ancien.
83 ans.
Ah oui. 83 ans. Non, jamais de la vie.
Mais par contre, il est pas si vieux. Il arrive.
Non, mais Jean-François Pérez.
Il a dit l'ancien, mais je commence à le connaître. En fait, il le connaît pas.
Si,
quand même. Jean-François
Pérez.
Écoutez,
Marseillais.
Marseillais.
C'est l'époque de Marc
Ambrosiano.
C'est le grand after, ça. C'est 2006-2007.
Samuel Epouvant aussi.
Exactement. Non, c'était un peu plus tard.
C'est un peu plus tard.
Ouais.
Le grand Sam.
On peut pas te tester,
Ah non, sur non, ça.
On peut pas te tester.
faut respecter l'after foot.
Donc ce sera tout à l'heure. Et puis alors, notre séquence vintage ce soir, OM Milan 91. Ça tombe bien, Jeff Perez était au stade.
D'accord. Ouais. Vous allez faire à Bordeaux Milan ou pas? C'est prévu ou...
Bordeaux Milan, c'était quand ça?
96.
Ah, mais je, bien sûr, on va le faire, ton Bordeaux Milan.
Oui, Jimmy, c'est bon?
Il est dans la liste de Gilbert en plus, je crois. Mm. C'est toi qui l'as mis Bordeaux Milan, tu vois?
Bordeaux Milan, match de légende.
Voilà. Évidemment. L'after à 22h,
Gilbert. Tout à l'heure.
À tout à l'heure. C'est parti pour Génération After. Bon, Gaël, on t'a revu récemment sur nos écrans de télé pendant la Coupe du Monde des clubs en tant que consultant. Qu'est-ce que tu fais depuis la fin de ta carrière, notamment? On t'a vu aussi, accessoirement, il y a à peu près un an et demi, même pas sur les bancs de l'équipe de France Espoir aux Jeux Olympiques.
J'apprends. J'apprends un métier qui est prenant, un métier qui, pour moi, est un métier d'impact sur les gens et sur les joueurs. Et on dit souvent que c'est le deuxième plus beau métier après être joueur de foot. Et c'est vrai que je savais que j'allais apprécier, mais je pensais pas que j'allais autant kiffer, quoi. C'est vraiment un kiff et carrément ça manque, quoi. Quand on n'est pas sur le terrain, il manque quelque chose. Donc voilà, on est dans l'apprentissage et puis on attend de voir ce que l'avenir nous réserve, quoi.
T'as un diplôme à valider à passer en décembre, je crois, c'est ça?
Ça y est, il a été validé. Il a été validé. Dernière, ouais,
magnifique.
La semaine dernière.
Félicitations.
Ouais, donc ouais, ça, c'est top.
C'est quoi, c'est BEPF?
Ouais, c'est ça. Là maintenant, ça y est, je suis en capacité d'aller prendre une équipe. Donc
une équipe pro.
Une équipe pro.
Ouais. Un plus haut niveau. Bon, voilà. Il y a Saint-Maur hein, aussi, hein, qui cherchera peut-être dans deux ans quand il montera en Ligue 2 un coach référencé.
Pas du tout, il est fidèle aux équipes, Kev.
Après, peut-être que mon coach sera sollicité pour la Ligue des Champions.
Ouais, tu seras encore là, tu seras peut-être pas sollicité par un club Ligue des Champions, c'est ça aussi, on
ne sait pas. On n'insulte pas l'avenir.
Mais Gaël, c'était un diplôme que tu t'imposais pour choisir une destination, parce qu'on a entendu ton nom à Dunkerque cet été, on a suivi un petit peu le dossier. Finalement, ils ont pris l'ancien entraîneur du Barça des 19.
Ouais, je pense que c'est important. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est seulement costaud en tant que coach quand on est choisi, en fait, donc au départ. Et pour ça, il faut pouvoir être libre de venir avec pas une équipe, parce que selon l'endroit où tu atterris, t'as pas forcément le choix d'avoir le luxe d'avoir 5 gars qui te suivent, mais au moins un ou deux. Et là, c'était pas le cas. Vu que j'avais pas encore le diplôme au moment de la conversation, c'était toujours prendre quelqu'un qui allait pouvoir valider ma présence sur le banc. Et je pense que c'était pas les meilleures conditions. Donc, je suis pressé parce que j'ai envie. Les 2 ans passés avec les espoirs m'ont montré beaucoup de choses et m'ont montré que j'avais envie d'apprendre. Mais je suis conscient que la première, quand même, il faut pas se louper. Et je veux commencer bien, quoi. Donc,
t'es prêt à commencer en national, en Ligue 2 également, pour apprendre?
Ouais, je suis prêt à commencer où le projet aura les valeurs communes avec mes valeurs. Et l'essentiel, c'est de pouvoir, comme je parlais avec Arsène Wenger, il me disait que l'essentiel, c'est de pouvoir avoir des décisions, pouvoir prendre des décisions. Alors oui, quand tu commences, t'as pas forcément le luxe de prendre les joueurs que tu veux, mais il faut quand même avoir son mot à dire. Yeah. Et j'essaie de me baser là-dessus pour commencer. Ouais.
Quand t'étais joueur, tu t'es tout de suite dit que tu voulais faire ce métier-là?
Ah bah oui.
Venu juste après.
C'était quasiment entraîneur-joueur au Servette. Hein.
Ouais, mais
tu dirigeais des séances.
En vrai, l'année, ma dernière année à City et la première année de Pep est super importante, en fait, parce que c'est travailler à ses côtés qui, en fait, me donne envie de devenir coach. Et en fait, je vois, si on met de côté toutes les coupes qu'il a pu avoir, parce que ça, c'est son histoire, la manière dont il interagit avec les joueurs, individuellement, collectivement et avec son staff, je me suis dit, finalement, si c'est ça, être entraîneur, j'ai envie d'essayer, quoi. Et donc, ouais, super important, mais top, quoi.
On en parlera bien dans la deuxième heure. Quand je vous dis Gaël Clichy, vous pensez à quoi, Walid, spontanément? Ferme les yeux. Quelle image? Quel qualificatif?
Moi, vraiment, je pense à Samir Nasri. Parce qu'il a joué, à Arsenal.
C'est sympa.
Ouais, non, parce qu'il a joué à Arsenal et à Manchester City avec lui. Donc, j'ai vécu leurs aventures communes et c'est le lien qu'il a avec moi. Mais bien évidemment, je pense à un latéral gauche de très, très grande qualité qui a été titulaire dans des grosses équipes à Arsenal et à Manchester City, qui a connu des grands coachs comme Arsène Wenger et comme Pep Guardiola, même Pellegrini, moi, que j'ai beaucoup aimé. À Manchester City et un latéral athlétique mais intelligent qui avait une réflexion et je suis pas surpris de l'entendre parler de football sur l'après carrière.
Moi je vais te parler d'un autre joueur en parlant de Gaël Clichy. Moi quand j'entends
super
Gaël
l'accueil Clichy, les gars, bravo.
Tu veux qu'on soit honnête ou pas?
On
a tous un lien.
Vous allez très vite comprendre et je pense que ce sera vraiment un compliment. Moi je pense à Ashley Cole. Parce que moi, je suivais Arsenal. Quand j'étais jeune. Ashley Cole était un de mes joueurs préférés. Puis Ashley Cole est parti à Chelsea. Et bah, en tant que Frenchy, bah, tu suivais toujours Arsenal. Et en fait, pour moi, Gaël Clichy, c'était le remplaçant d'Ashley Cole.
C'est le prolongement.
C'est celui qui allait prendre la place d'Ashley Cole. Et c'était pas facile à faire. Et donc, voilà pourquoi, pour moi, voilà, tu restes le Français qui a réussi, en tout cas, à prendre la place d'une légende, quand même, du football anglais, qui était pour moi le meilleur latéral gauche ou un des premiers modernes, comme ça, très offensif, capable de monter, mais capable aussi de défendre. Et voilà, moi, je trouve que t'as bien fait le job. Donc bravo, parce que c'était pas facile de passer après des joueurs comme ça. Et ça a été aussi le cas pour d'autres, hein, d'autres Français qui sont arrivés après les Henri, Grimandi, etc. Et perpétuer comme ça la tradition, parce que ça pouvait être aussi, le Franc, maintenant on prend que des Français Arsenal, et ça devait pas être facile. Voilà pourquoi. Moi, je pense à.
Et toi, Nico, on va parler d'Arsenal, City, dans la deuxième heure avec toi notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que les Français ne connaissent pas très bien en tant que joueurs. En tout cas, ceux qui sont hyper attachés à leur championnat, à la Ligue 1, parce que tu as connu Cannes en National, c'est là que tu étais début, et après tu pars directement en Angleterre, à Arsenal. Je sais pas, dans la rue, on t'arrête ou pas, on te reconnaît, Gaël?
Mais c'est marrant, parce qu'en fait, en France, on me reconnaît maintenant que je passe un peu plus à la télé.
Et ben voilà, c'est ça.
C'est fou, en fait. Mais non, et puis l'interview que j'ai fait avec Zach sur sa chaîne, avec Zach Nani. Donc ça montre, en fait, à quel point. Enfin, comment la jeunesse consomme le football.
Ah, mais là, tu vas avoir la bascule. Quand tu sors, tu peux plus marcher dans la rue.
C'est vrai.
Dans
le 15e arrondissement, ça va être la
fin. 2 heures, c'est fini. Là, t'as fait la bascule ce soir, Gaël.
Je crois que je suis à l'école.
Bon, allez, on parlera dans la deuxième heure. D'abord, l'équipe de France, le rassemblement de matchs de victoire, tout droit vers le mondial 2026. T'as pensé quoi, déjà, Gaël, de ce rassemblement, de matchs différents, de victoires, certes, Ukraine et Islande? Globalement, c'est la question qui nous réunit dans ce début de génération after. T'as le sentiment que ces bleus-là progressent, cette génération-là, en tout cas, ensemble?
Collectivement, je pense que l'équipe de France progressera plus, et je pense qu'on ne verra pas une équipe de France jouer comme l'Espagne. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à 12 années avec Didier. Moi, la chose que j'ai envie de dire, c'est que mon fils a 9 ans bientôt, et il n'a jamais vu l'équipe de France aller en dessous des demi-finales d'un événement. Et ça, c'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui, quand on va parler de mon avenir en tant que coach et mes envies, c'est vrai que c'est un milieu où on a la chance d'impacter des joueurs, on peut faire progresser des joueurs, on peut peut-être à ton niveau être créatif et montrer certaines choses qu'on ne voit pas au très haut niveau. Le très haut niveau, c'est juste le résultat, en fait. Et donc, quand on parle de résultat, il y avait 2 matchs, il y avait 6 points à prendre, il les a pris. Et si on se qualifie pour le mondial, c'est ce qu'on retient. Donc oui, est-ce qu'on peut débattre sur la façon de jouer de l'équipe de France avec les joueurs qu'on a, les générations qu'on a, la qualité qu'on a? Oui, ça on peut. Et c'est ce qui est beau dans le foot, c'est qu'en fait on peut aller au bar, au bout de la rue, et puis on peut discuter jusqu'à 6h du matin.
Ouais, justement,
mais la vérité, c'est que ils gagnent, quoi.
Ça a inspiré un avis à Kevin qui est fataliste. Il est résigné, il ne s'attend plus à prendre du plaisir devant le jeu déployé par l'équipe de France de Deschamps. Jingle Kevin Diaz.
Pour moi, il y a hors-jeu. Pour moi, il y a hors-jeu. En dessous d'une épaule. Là, je pense que tu peux faire confiance à mon Hawkeye. Et l'épaule, elle est en effet en avant.
Le but va être accordé. Pour le Toulouse.
Alors qu'il y avait hors-jeu. Pour
c'est le meilleur, celui-là.
Arrêtons d'espérer prendre du plaisir avec l'équipe de
écoute,
France.
On ne s'était pas concerté avec Gaël, mais il vient de faire un bon préambule à mon avis, parce que pour le coup, j'aurais pu être son adjoint, ou il aurait pu être le mien sur ce coup-là, parce que c'est exactement ce qu'il vient de dire. J'entends beaucoup de débats. Est-ce que l'équipe de France va mieux jouer? 3 attaquants, 4 attaquants, on peut même en mettre 6 des attaquants. Mais moi, ça fait déjà bien longtemps que je suis résigné. Et que ce soit pour le football de haut niveau, comme vient de le dire Gaël, encore une fois, ce qui compte, c'est les résultats. Et donc moi, je vais m'atteler à voir les résultats avec Didier Deschamps. Ça fait bien longtemps que j'ai oublié que je ne pense plus que Didier Deschamps, que l'équipe de France qu'il manage ou qu'il dirige pourra jouer comme l'Espagne, ou même comme le Portugal, ou même comme une certaine Belgique d'Eden Hazard à un moment. Non, Didier Deschamps, c'est un pragmatique. Et je pense, humblement, c'est un excellent sélectionneur, mais pour moi, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire jouer ses équipes. C'est une qualité. Il y a des équipes il y a des entraîneurs comme Guardiola, comme Enrique, qui ont des principes de jeu bien définis. Alors, on va parler de système ou de nombre d'attaquants. Alors, l'équipe de France, elle joue en 4-2-3-1, ou elle joue en 4-3-3, ou elle a essayé aussi de jouer en 3-5-2. Mais peu importe, quels sont les principes? Est-ce qu'ils vont chercher haut? Est-ce qu'ils vont presser? Est-ce qu'ils essayent d'avoir une récupération haute? Ou est-ce qu'ils attendent en bloc médian? Est-ce qu'ils ont des joueurs rapides? Ils ont plutôt des joueurs rapides, l'équipe de France, en tout cas de maintenant. Il n'y a plus de Griezmann, il y a moins de joueurs qui sont capables de faire des différences dans des petits espaces. Donc, même s'il y a des dribbleurs, mais attention, Didier Deschamps dit après le match, il a parlé un peu foot pour le coup hier après le match, c'était intéressant. Il dit, nous, on a essayé d'isoler, et en gros, son objectif, c'est d'isoler les joueurs de couloir en 1 contre 1. pour laisser parler leur qualité de dribble et de percussion. Il a demandé de la percussion, pas de la maîtrise, de la percussion. L'impercussion, c'est quoi ? Aller le plus vite possible vers le but. C'est très bien, droit au but, pourquoi pas. Mais en tout cas, le jeu, comme on l'entend, c'est plutôt un jeu de position. Un jeu où tu vas être capable, face à un bloc bas, de trouver des déséquilibres. Ça demande beaucoup de travail, ça demande une philosophie, une méthode de travail que n'a pas Deschamps. Deschamps fait autre chose. Deschamps, chaque rassemblement, il retourne les deux buts mobiles. Il fait 11 contre 11. Le gardien Mike Maignan, il joue dans le champ. Il y a même les réseaux sociaux de l'équipe de France qui ressortent ça. Et après, il va dire qu'il n'a pas le temps. Donc, il a le temps. C'est d'une seule chose, Didier Deschamps, il a le temps de gagner.
Mais voilà, franchement, lui, okay, à part l'Espagne, qui le fait gagner. Ce jeu de position dont tu parles, à part l'Espagne.
Mais non, mais c'est faux. Le Portugal essaye de jouer au foot. Wow. Les Pays-Bas, avec plus ou moins de réussite,
essayent de jouer au foot. Le Portugal n'essaie pas de jouer au foot.
On a vu le dernier Euro, le match France-Portugal.
C'est plutôt des joueurs techniques, c'est pas des joueurs de transition.
Avec Roberto Martinez, je vois pas du foot, moi.
Enfin, non, mais qui des profils tu parles, oui, mais
je te parle de profil de jeu.
Ah oui, c'est des joueurs.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que le Portugal veut avoir le ballon ou est-ce qu'ils veulent aller très très vite vers le but? Pour moi, ils veulent plutôt avoir le ballon. C'est-à-dire avoir le ballon, c'est-à-dire imposer quelque chose. Pour moi, aujourd'hui, il y a deux footballs. Il y a un football, et je finis là-dessus, un football d'imposition où tu veux imposer quelque chose à l'adversaire, que ce soit tes principes de jeu, ton style, ou il y a un football d'opposition où t'attends tranquillement en bloc médian et t'essayes de contrer le mieux possible, la façon la plus efficace. En concédant le moins d'occasions. Pour moi, Didier Deschamps est un entraîneur d'opposition. Bon. Il a toujours dit, ce qui compte pour lui, c'est l'équilibre. C'est pas le jeu.
Il l'a redit la semaine dernière, c'est une des premières fois qu'il le disait en 12 ans. Il était un peu fataliste. Hein. En sélection, j'ai pas le temps de faire ce que je voudrais faire, de mettre en place ce que je veux faire, c'est donner sûr, c'est pas le visage à mon équipe de France que je voudrais lui donner. C'est ce qu'il explique. Alors, faut-il le croire ou pas? Tiens, Walid. Et après, je veux l'avis de Gaël, qui a quelques sélections, qui a fait quelques rassemblements en équipe de France.
Non, mais pour revenir sur l'avis de Kevin, je le trouve un peu has-been, son avis. C'est-à-dire que déjà, personne ne demande du jeu en équipe de France. Et après 12 ans de Didier Deschamps, tout le monde s'est fait une raison sur
l'équipe de France. Il y en a qui parlent de « Ah oui, mais maintenant on joue avec 4 attaquants ». Je l'ai entendu toute la semaine.
Enfin, on peut avoir bien évidemment des débats.
Ça change quoi de mettre 4 attaquants?
Non, mais on peut faire des débats sur l'animation offensive de l'équipe de France. Surtout vu aujourd'hui le réservoir et le matériel que tu as devant, ce que tu n'avais pas.
Mais qu'est-ce qu'il y a à Esbin alors?
Non, le côté
laisse-le parler, il va t'expliquer.
Le côté has-been en termes de timing de ton avis, c'est de dire oui les gars, Deschamps il est pragmatique, Deschamps c'est les résultats, mais ça on le sait, on le dit matin, midi et soir depuis un moment. Maintenant moi là où je te trouve un peu caricatural, parce que pour le coup moi je suis ton équipe hein, sur Didier Deschamps et je me suis fait une raison depuis un moment. Par contre quand on regarde les matchs de l'équipe de France, je trouve qu'il y a des choses intéressantes à décrypter. Peut-être que je suis encore un doux rêveur et un naïf, mais je trouve que les 30 premières minutes contre l'Espagne, même si tu prends l'eau, sont quand même plutôt intéressantes dans le côté imposition de la chose. Je sais pas si tu te rappelles de ce match-là en Ligue des Nations, mais j'avais vu des choses que je ne voyais rarement en équipe de France. Les 30 premières minutes contre l'Ukraine, je trouve que dans le contre-pressing, ils ont essayé d'aller chercher très haut, sans le ballon, il y a eu des choses intéressantes, et même avec, dans la connexion où, si on se posait la question avec Mbappé, on en parlera après, est-ce qu'il va respecter son rôle? Est-ce qu'il va laisser le champ d'action à Olysée, aux ailiers notamment? Je trouve que c'était plutôt intéressant. Maintenant, attention, dans ces matchs-là, il y a à boire et à manger. Parce qu'en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué. T'as quand même la
satisfaction. C'est jamais bon pendant 90 minutes.
Non, mais t'as quand même la satisfaction du double pivot Manu Koné et Tchouaméni. Ou moi, Tchouaméni, je l'ai beaucoup critiqué ici dans cette émission. Je trouve qu'il fait un bon rassemblement.
Non, il fait un bon début de saison.
Oui, il fait un bon début de saison avec Xabi Alonso, avec le Real Madrid. Donc, je vais pas m'emballer sur le jeu de l'équipe de France. Mais je trouve
mais
quand même.
Que le jeu, ça veut rien dire.
Non, mais qu'on a un peu de biscuit sur les dernières rencontres. Tu peux prendre aussi le match contre la Croatie au Stade de France, où je trouve que globalement, dans le jeu.
Il trois jours avant.
Oui, ça a été catastrophique.
Au global, on a connu des périodes bien pires que celles aujourd'hui de Deschamps. Mais, tu vois, sur les 12 ans de Deschamps, il y a eu des phases, ça jouait moins.
Mais en fait, la vie, c'est pas de dire qu'on ne verra pas de jeu, puisqu'on n'en a jamais vu. Donc en fait, je sais pas si t'as pas compris mon avis, je n'ai jamais dit, les gars, on ne verra pas de jeu. J'ai dit, les gars, on n'a jamais vu de jeu, et c'est pas parce qu'il y a 4 attaquants, ou parce qu'il y a soi-disant un joueur offensif de plus, ou parce qu'il y a Désiré Doué ou Olysée que vous en verrez plus. Vous verrez toujours des individualités qui doivent se mettre au service d'un collectif et d'un bloc bien en place.
Donc voilà. Ton avis du soir, c'est on parle plus de jeu, on parle plus
en équipe de résultat.
On fait des émissions. Pendant tes émissions, on
faudra parler du résultat.
Uniquement du résultat. C'est-à-dire que toi, tu verras pas un match blanc ou un match un peu plus gris, un match un peu plus. C'est-à-dire qu'on n'aura pas décrypté la couleur. On décryptera pas la couleur de.
On a gagné.
Attendez les gars. D'accord. Gaël, t'avais quelques rassemblements. C'était d'accord avec avec Deschamps quand il dit j'ai pas le temps de mettre en place ce que je veux mettre en place?
Oui, carrément. C'est dur. Déjà, l'Espagne, en fait, il s'appuie sur un noyau, en fait, qui évolue à Barcelone, qui a déjà des principes de jeu.
Sur un langage
déjà
commun depuis ado.
Depuis ouais, tout petit. Et donc ça, déjà, ça facilite. Mais c'est vrai qu'en sélection, et là, je parle pas en tant que joueur, je parle en tant que sélectionneur que j'ai pu être, enfin, assistant sur les deux dernières années. Vraiment, sur un rassemblement de 10 jours, tu as ton groupe au complet pour travailler correctement 2 jours sur les 10 jours. Donc ça veut dire que tu récupères des joueurs sur les 2-3 premiers jours. Certains ont joué le samedi, certains ont joué le dimanche, certains ont même joué le lundi. Ça dépend où tu évolues. Du coup, tu as un groupe qui est réduit sur les 2-3 premiers jours, sachant que les 2-3 premiers jours d'entraînement, tu peux pas forcer parce qu'il y a des mecs qui ont joué le vendredi. Donc vraiment, tout ça, c'est très compliqué. Donc quand il dit qu'il n'a pas le temps, c'est vrai qu'il n'a pas le temps. On peut pas demander aujourd'hui à Didier Deschamps de jouer d'une certaine manière parce que le temps n'est pas.
Oui, mais Kevin, la limite, pardon, par rapport à ce que disait Kevin, c'est quand même que ça fait 12 ans, vous, avec Thierry, quand vous êtes arrivé. Alors, non, mais c'était pas le Brésil 70, mais au bout d'un an, avant de préparer les JO, etc., tu comprends un peu une manière de jouer. Deschamps, il a tenté plein de trucs, rechanger, machin.
Le niveau des moins de 21, avec tout le respect qu'on a, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui sortent de la formation et le niveau juste des 21 au 23, il y avait un gap qui était considérable. Donc au niveau très 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 haut niveau, les A, c'est pas la même chose. Et puis tu as des générations, tu as des joueurs qui partent, tu as des joueurs qui reviennent. Pour moi, les certitudes et les choses qui sont pas trop mal, c'est qu'il y a, je trouve, une équipe qui joue quand même un peu mieux et puis des joueurs qui se révèlent comme Manu Koné, comme on disait, et on voit clairement qu'il veut donner cette place à ces joueurs-là. Est-ce qu'ils deviendront comme l'Espagne en si peu de temps? Je ne pense pas.
Mais personne ne peut faire comme l'Espagne.
Non, personne ne peut le faire. Par contre, je suis d'accord de l'avis de Walid, où en fait, on voit une équipe qui progresse, je ne sais pas, mais en tout cas, qui essaie de mettre des choses en place. Et ça, il ne faut pas l'enlever.
Est-ce qu'il n'y a pas une autogestion des joueurs aussi, à un moment donné, à vouloir retourner la table par rapport aux qualités individuelles qu'on a aujourd'hui sur le matériel offensif? La personnalité, de se dire qu'aujourd'hui, avec Didier Deschamps, moi, je suis persuadé, Gaël, que la France des quatre offensifs, elle vient aussi parce que Didier Deschamps ne pourra pas, enfin, il aura du mal à faire des choix et à couper une tête parce que entre Ousmane Dembélé, entre Olise, entre Désiré Doué, entre Barcola,
oui, il a
l'embarras du choix, il faudra pas frustrer cette équipe offensive et que eux, par la même occasion, vont devoir répondre sur le terrain et peut-être apporter cette créativité que tu n'avais pas peut-être sur le dernier Euro où tu étais obligé de bricoler avec un Griezmann en fin de vie, avec un Marcus Thuram qui devait jouer un contre-emploi, un Colomouani qui a moins de talent qu'un Olise ou qu'un autre. Moi, j'ai ce sentiment-là aussi que peut-être que ces joueurs-là vont devoir, sur les prochaines échéances, retourner la table.
Tu crois que c'est possible avec Deschamps ou pas? Je pense que les joueurs prennent en main un peu leur idée de jeu, leur équipe.
Non, ils prendront pas le c'est pas eux qui prendront le leadership, jamais de la vie. Mais par exemple, on voit le but sur l'action du penalty avec Marcus qui combine avec Kylian. C'est ça, c'est dans ces moments-là en fait. Si le sélectionneur arrive à placer ses joueurs dans les endroits où ils peuvent être impactants sur le jeu, là, on a des joueurs de qualité, ils feront effectivement la différence, mais ça a toujours été ça, depuis la nuit des temps.
Mbappé le dit dans l'interview, il dit, c'est pour lui l'équipe de France la plus talentueuse. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais tu sens que il croit beaucoup à ce réservoir offensif, il croit beaucoup à cette équipe, et que moi, je pense que ça va dans le sens de ce que je viens de dire précédemment.
Mais hier, il dit après le match, donc moi c'est beau, Didier Deschamps dit après le match, alors j'ai mis Thuram à gauche parce qu'il devait se rapprocher un petit peu de Kylian Mbappé et pour laisser la place à Théo Hernandez. C'est ce qu'il dit hier, mais Théo Hernandez n'a pas assez pris le couloir. Mais c'est pas tu prends le couloir.
C'est vrai
dans
que les latéraux, ils ont pas été bons.
Non mais d'accord, mais dans le foot, c'est pas tu prends le couloir ou tu prends pas le couloir. Qu'est-ce que l'équipe fait? Qu'est-ce que ton milieu de terrain fait pour libérer la zone qui doit être prise? Ou est-ce que c'est juste Marcus, t'as jamais été lié gauche de ta vie quasiment?
Si.
Ouais, t'as joué attaquant gauche.
Mais là, il est formé là-bas. Il joue beaucoup.
C'est un avançante, les gars.
C'est un avançante.
En tout cas, ta vie en équipe de France, t'es pas un ailier gauche. Là, tu vas jouer un match de temps en temps, puisqu'il y a des absents. Donc là, tu vas libérer un couloir. Mais t'es où? T'es dans l'interline? T'es dans le couloir intermédiaire? Tu vas où? À quel moment tu pars? C'est qui le starter? En fait, il n'y a rien à part de dire ce qu'on dit à tous les niveaux. Bon, les gars, tu rentres à l'intérieur et l'autre, il prend le couloir. Mais en fait, comment l'équipe de... Elle ne peut pas s'articuler comme ça, cette équipe de France. C'est pas possible. À part si tu demandes à un des centraux de venir entre les deux, de laisser la latéralité pour les latéraux, et là les latéraux c'est eux qui vont prendre la largeur, ou alors tu fais un truc hybride.
Mais moi j'ai pas aimé le match d'hier, mais moi là où je veux rebondir sur ton avis, Kevin, c'est que dans la séquence, Moi, il y a des choses. Toi qui connais très très bien le foot, les 30 premières minutes contre l'Ukraine, t'as aimé ou t'as pas aimé?
C'était très bien.
Non, mais tu vois, c'est des choses qu'on voit.
Mais qui a dit que l'équipe de France n'a pas été bonne?
Non, mais c'est sur le contenu, c'est sur les intentions. Moi, j'ai vu des intentions de jeu de la part de Barcola, Olise, Mbappé, notamment sur le pressing, Tchouaméni, Koné qui allait à la gorge des joueurs ukrainiens. Et ça a été beaucoup moins le cas en deuxième mi-temps. Et on peut ouvrir un deuxième dossier et un deuxième tiroir que j'ai rarement vu en équipe de France, moi.
Mais ils l'ont fait, tu l'as dit, en Ligue des Nations.
Contre l'Espagne aussi.
Mais c'est assez récent.
Je trouve que c'est récent. Alors que, est-ce que c'est les joueurs offensifs qui sont conscients que, en fait, la carotte, c'est, si vous voulez jouer à 4, les gars, il va falloir que vous fassiez tous les efforts. Est-ce que c'est Deschamps qui travaille ça? Ça, par contre, j'ai pas la réponse.
Mais les gars, si Mathieu dit, il a 5 ans de moins, mais vous voyez qu'il joue pas, là, dans l'équipe? Mais c'est ce que disait Gaël. Il y a un moment, t'arrives dans une génération où il y a beaucoup de joueurs offensifs. À un moment, on a eu beaucoup de centraux. Là, il y en a quelques-uns qui sont blessés.
Après, il va jouer à Rabiot, là.
Ça veut dire que tu penses qu'à la Coupe du Monde, il y aura Rabiot?
Mais bien sûr que oui. Mais vous croyez
qu'il jouera pas à 4 devant? Toi, tu dis, il va pas aller au bout à 4 devant. Mais il va pas à la Coupe du Monde à 4 devant.
L'Espagne en 8e, il met cette équipe-là.
Bah, il l'a fait récemment en demi-finale de Ligue des Nations.
Et ça a donné
Ligue des Nations.
Bah, ils ont gagné 5-4, l'Espagne.
Oui, Ligue des Nations.
Moi, je pense que le sélectionneur, c'est quelqu'un de très intelligent. Bah, vous le savez. Qui échange beaucoup. Il échange beaucoup avec ses cadres. Et je pense effectivement qu'il y a une discussion avec les joueurs offensifs, savoir comment vous estimez que vous allez le mieux jouer.
Il y a un contrat de confiance.
Oui, mais c'est tout grand entraîneur sait faire ça. Aujourd'hui, on ne parle pas de joueurs lambda. On parle de joueurs qui sont potentiellement dans la course pour le Ballon d'Or. Donc en fait, et des nouveaux qui vont arriver, qui le seront aussi. Donc en fait, bien sûr, tu dois être à l'écoute de ces joueurs-là. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il y a du mieux. Je ne sais pas si on arrivera comme l'Espagne, mais je pense que oui, il est obligé à un moment donné avec les joueurs qu'il a, c'est pas de prendre des risques, mais de décider de jouer différemment.
Mais le paradoxe par rapport à ce que tu disais sur le côté talentueux, etc., et pour rejoindre un peu Kevin, la seule fois récemment sous Deschamps où tu as eu ce potentiel offensif, c'est l'Euro 2021. Et le paradoxe, c'est que tu sors en 8e.
Oui, mais attention, Jimmy,
où tu joues Benzema, Mbappé.
Jimmy, il y a aussi un cheminement dans une carrière d'un sélectionneur. C'est-à-dire que il a raison, Kevin, quand il parle de Matuidi. Là, aujourd'hui, on pourrait le comparer à Adrien Rabiot. C'est comme ça qu'il joue sur la dernière compétition, ouais. La Coupe du Monde. C'est le porte-flingue de Kylian Mbappé sur la compétition, Adrien Rabiot. Mais peut-être que s'il n'avait pas gagné encore de Coupe du Monde, il jouerait aujourd'hui, comme tu es en train de le décrire. Mais peut-être que c'est son barreau d'honneur à Didier Deschamps, qu'aujourd'hui, il a des solutions avec notamment beaucoup de joueurs du PSG qui ont pris conscience cette saison avec Luis Enrique qu'il fallait travailler, qu'il fallait défendre. Et peut-être que, je suis encore peut-être un doux rêveur, mais il se dit, bon, on va essayer d'aller comme ça. Mais moi, je serais très déçu que Didier Deschamps travaille, parce que sur des gros matchs, Croatie, Espagne, Allemagne, Ukraine, de cette manière, et que derrière, ils repartent sur quelque chose de beaucoup plus défensif avec
mais un. Parce que la Coupe du Monde, c'est pas Ligue des Nations valide également. Tu vois, ne valorise pas trop Ligue des Nations.
Non, mais oui, d'accord, mais le processus, faut le valoriser quand même. Parce que tu parles de travail. Il a pas de travail à l'entraînement. Mais par contre, pour moi, c'est des travaux pratiques qu'on voit en ce moment en équipe de France. Ligue des Nations.
Il a déjà fait par le passé. Hein.
Oui.
Tenter des choses.
Le 3-5-2.
Exactement.
Merci, j'allais le dire.
Voilà.
Le 3-5-2,
je crois notamment.
Non, il faut quand même dire que le 3-5-2, allez, il l'avait quand même mis en place dans un huitième de finale sans l'avoir travaillé une seule seconde, et puis après il l'a changé à la mi-temps
contre la Suisse.
Sur la Suisse, exactement. Bon, dans un instant, on va parler de quelques joueurs individualités. Je crois que tu veux nous parler de Michael Olise, que tu connais bien, que t'as eu chez les Espoirs pendant tes 2 années aux côtés de Thierry Henry. On veut parler aussi de Manu Koné, hein, vous l'avez déjà cité, son évolution, et on parlera aussi de Kylian Mbappé, son interview. Cette question, êtes-vous séduit par le nouveau Kylian qui a parlé à nos confrères de l'équipe cette semaine. Restez avec nous, la suite des générations After dans un instant avec Gaël Clichy. A tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, Oleda Cherchour, Jimmy Brown et notre invité exceptionnel ce soir, Gaël Clichy, à nos côtés jusqu'à 22h. On parle de l'équipe de France dans Génération After, le 32-16 est ouvert. Vous pouvez nous appeler également pour nous dire ce que vous avez pensé de cette équipe de France, si elle a progressé ou pas sur ces derniers rassemblements. Je voulais qu'on parle d'individualité notamment. Tu as deux petits qui poussent en équipe de France, qui sont installés, Manu Koné qui a enchaîné les 2 matchs comme titulaire, et Michael Olise, que tu as eu pendant un an à peu près.
Les deux.
Ouais, c'est ça.
Les deux,
ouais, les deux aussi.
Michael Olise pendant deux ans quasiment.
Non, un an,
Michael.
Juste l'année des JO, ouais.
Exactement. Bon, qu'est-ce que tu peux nous en dire de Michael Olise? Nous, on voit un jeune homme timide. Évidemment, on le voit le week-end avec le Bayern, et il est phénoménal. C'est un titulaire indiscutable maintenant au FC Bayern. Comment tu vois son évolution au sein de l'équipe de France, surtout, et quelle est sa marge, surtout, selon toi?
Ouais, il est timide, et moi, il y a quelque chose que j'ai envie de mettre en avant, parce qu'aujourd'hui, avec le souci qu'on a aujourd'hui en France avec les binationaux, il y a toujours des joueurs qui sont tiraillés entre je veux, je ne veux pas, je peux, je ne peux pas, parce qu'il y a aussi, il y a aussi beaucoup de ça. Lui, il faut remettre les choses au moment où elles se sont passées. Il est en partance pour le Bayern, donc c'est peut-être le jour le plus important de sa carrière. Quoi. Il part de Palace, avec tout le respect que j'ai pour Palace, aller au Bayern. Bayern nous refuse Mathys Tel, et donc en fait, on se dit qu'ils vont sûrement nous refuser Olise. Parce que
j'ai des espoirs.
C'est les espoirs pour jouer la compétition, les JO. Et en fait, il arrive là-bas et il dit en fait, ben moi je suis OK. Par contre, une des conditions, c'est que je puisse terminer l'aventure des JO. Et en fait, c'est important de montrer l'amour qu'il a pour le maillot, parce qu'aujourd'hui, on voit ce que ça représente. Hein. On sait que ces jeunes sont tiraillés l'entourage ou des envies de voir ailleurs, ou peut-être pas assez de confiance pour justement aller chercher. Lui, il aurait pu jouer pour l'Angleterre.
Ouais, il aurait pu jouer pour l'Angleterre.
Avait dit, s'il veut, il vient, il sera titulaire. Ouais, il jouera.
Il aurait fait même l'Euro.
Il aurait fait l'Euro.
Parce qu'il fait une fin de saison à Palace exceptionnelle.
Ouais, il est précis. Donc
ça, je trouve que c'est important à mettre en avant pour montrer en fait.
Il t'en a parlé de ça. Pourquoi la France? Enfin, il en a déjà parlé en interview. Hein, parce qu'il a plein de souvenirs gamin, l'équipe de France, celle qui l'a fait rêver.
Sa mère est de Toulouse, et les Toulousains, c'est des gentils gens. Non, mais il est amoureux de ce maillot pour une raison qui lui appartient. Et puis après, c'est vrai qu'en termes de qualité pure de joueur, c'est juste phénoménal, quoi. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'en général, ces joueurs-là qui ont vraiment cette patte, il faut toujours les pousser pour aller chercher des statistiques sans ballon, les pressings, le contre-pressing, le travail défensif. Lui, c'est un mec, en fait, il rechigne pas. J'ai fait un petit rapport à la fin des JO et je regardais, il était toujours dans le top 3 des joueurs qui font les efforts, et moi je trouve que ça c'est incroyable, un peu à l'image de Griezmann, quoi. Et donc en fait il rentre vraiment dans le schéma de Didier Deschamps, avec cette qualité pour faire la différence allant de l'avant, mais aussi se sacrifier pour les adversaires, pour toi, c'est
quoi son poste?
Tu préfères en 10 ou sur un côté?
Moi je pense qu'aujourd'hui la place du numéro 10, c'est plus un 10 hybride, tu vois, quand tu l'imagines dans un schéma à la Enrique ou Pep, où il va pouvoir de temps en temps dézoner et partir un peu sur le côté, parce que par exemple on joue contre la Guinée au JO et c'est un match où en fait ils sont à 5 derrière, un peu comme le match qu'on a vu hier avec l'équipe de France, et même si les gens veulent pas l'entendre, c'est très difficile de jouer contre des défenses à 5, il y a peu d'espace,
donc bloc bas comme ça.
Voilà, à ce moment-là, il faut des joueurs qui arrivent à te faire sauter un petit peu dans le 1 contre 1, et donc on a avec Thierry, avec Gérald, et on se dit ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, et au final on décide de dézoner Michael sur la droite en disant ben, un contre un va faire la différence. Sur le deuxième ballon qu'il touche, il fait la différence, il délivre un centre pour Sildilia, et 1-0 on gagne. Et donc en fait c'est ces joueurs-là qui sont aussi performants à l'extérieur que dans l'axe, mais c'est un joueur qui peut absolument tout faire. Et donc,
il n'y a pas un petit problème, justement, aujourd'hui, dans le football moderne, parce que Michael Olise, tu le décris, mais j'ai l'impression que tu pourrais parler de Désiré Doué. Il y a ce genre de joueurs qui sont ultra talentueux, plutôt intelligents, comme tu as dit, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais justement, le fait d'être hybride, en fait, quand tu es un peu bon partout, tu es aussi un peu excellent nulle part, tu vois. Mais donc, est-ce qu'il est vraiment numéro 10? Est-ce qu'il est vraiment joueur de côté? Est-ce que c'est un limite? Est-ce que c'est un attaquant? Différent.
Je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai que moi, j'ai connu un joueur, Milner, à l'époque, c'était ça. Ouais. C'était un joueur qui était bon partout, pas extraordinaire quelque part, et du coup, en fait, il fait une carrière extraordinaire, mais une carrière où il ne s'est pas vraiment imposé sur un poste. Aujourd'hui, on n'est même plus dans le jeu de position, on est dans le relationnisme, en fait. Ouais, et donc, en fait, aujourd'hui, rares sont les équipes qui arrivent à le faire, mais on voit que les équipes qui touchent la perfection, comme Paris l'année dernière, City il y a quelques années, c'est des équipes qui demandent aux centraux de devenir 6, aux latéraux de devenir 6, aux latéraux d'être ailiers. Et donc, en fait, quand on parle de joueurs hybrides, c'est ces joueurs-là qui arrivent à, quelque part, te donner 2-3 situations, 2-3 positions. Et en plus de ça, moi, j'ai envie de dire que c'est un peu le football d'aujourd'hui, parce que même les clubs avec un backup financier pas top, qui peuvent pas aller chercher des joueurs, doivent former ces joueurs.
Un joueur peut être 2-3 solutions.
Donc en fait, voilà, ils rentrent exactement dans ce type de joueur.
Pour revenir sur le cas Michael Olise, j'aimerais m'appuyer sur l'analyse de Gaël, parce que moi, je suis un peu perturbé en fait par Michael Olise, parce que c'est un joueur, bien évidemment, qui est déroutant, qui a un talent exceptionnel, qui fait un début de saison canon avec le Bayern Munich, en étant décisif, surtout devant le but. Et je trouve que par rapport à ce qu'il fournit au Bayern, il n'y a pas assez de bruit médiatique, parce qu'il y a une confidentialité sur le championnat. Je pense que s'il fait ça en Première Ligue ou dans un très très gros club, c'est différent. Maintenant, prenons le cas de Michael Olise en équipe de France. Moi, je sors de ce rassemblement en me disant, purée, Le mec, il est capable de faire des choses exceptionnelles avec le ballon. On l'a vu encore hier, hein, même s'il donne un ballon de but avec une déconnexion mentale. Ça frappe sur la barre, ça passe pour Marcus Thuram, ce qu'il fait sur le premier match contre l'Ukraine dans les 30 premières minutes. Mais j'ai l'impression, en fait...
C'est beaucoup, quand même.
C'est beaucoup. C'est vrai que je te dis que c'est énorme ce qu'il peut réaliser avec le ballon. Maintenant, il y a aussi, j'ai l'impression, quand je regarde ces matchs-là et quand je sors de ce rassemblement, en fait, il a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que quand on parle d'équipe de France joueuse, cette équipe de France à quatre attaquants, moi, je ressors de ce rassemblement en me disant encore une fois que c'est pas un numéro 10 et que c'est un joueur de côté. Pour moi, c'est un MOD. C'est un milieu offensif droit, capable de rentrer dans l'axe avec sa patte, de pouvoir délivrer un ballon dans n'importe quelle position. Par contre, avoir le contrôle du jeu pendant, je vais pas dire 90 minutes parce que c'est excessif, mais pendant au moins une heure de jeu, ne pas disparaître pendant les rencontres, et c'est ce que j'ai ressenti, moi, contre l'Ukraine. 30 points à mieux de très grande qualité. Quand l'Ukraine va très très bien, je trouve qu'il disparaît du match et qu'on est en difficulté et que même le double pivot Koné et Tchouaméni est un peu laissé à l'abandon. C'est pas le seul responsable, mais si on fait la comparaison avec Griezmann notamment, qui jouait dans ce poste-là dans ses très belles années avec l'équipe de France, il y avait un jeu de continuité un peu plus présent sur le long terme. Et c'est ça que toi tu dis que tu le vois avec un gros coffre physique, et je me posais la question, on en parlait avec Jimmy pendant toute la journée, est-ce que c'est un problème physique, est-ce que c'est un problème mental, est-ce que c'est de la flemme, est-ce que c'est de la fainéantise?
Ça s'appelle l'animation, c'est ce dont j'essayais de te parler tout à l'heure.
Moi, je pense que parce que moi, par exemple, Michael Olise en 10 en équipe de France, sur le long terme, c'est-à-dire au très très haut niveau, comme contre l'Espagne, comme contre l'Ukraine, j'ai du mal à y croire sur l'aspect compétitif, sur avec, sans ballon. Avec, il va être très très bon, sans le ballon, j'ai des doutes.
Non, moi je pense que tu allais le dire, Kevin. Je pense que l'exemple que je peux te donner, c'est un peu comme Ake à City. Ake, quand ils font, il y a 2 ans, la saison où ils font absolument tout, il joue arrière-gauche, et pour moi, il fait partie des 3 meilleurs en Europe. Tu le sors de cette structure et tu le mets arrière-gauche dans n'importe quelle équipe en Europe, c'est un joueur, je ne vais pas dire moyen, mais déjà, ce n'est pas un arrière-gauche. Donc, en fait, ce que je veux te dire, c'est que ces messieurs comme Guardiola et Luis Enrique, et compagnie fait partie de ces mecs-là, je pense, c'est la nouvelle génération de coachs qui aiment ce type de football, la structure est tellement forte que le joueur va briller. Ce joueur-là, en fait, dès que tu le laisses en possession, il va toujours avoir une demi-seconde libre, et il va te faire la différence. Et pareillement, quand tu perds le ballon au Bayern de Munich, il n'y a pas de question, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est de suite en fait, il y a les 5 secondes, on récupère le ballon, et c'est vraiment tout le monde. Moi je me souviens, enfin je regarde leur match, c'est vraiment, les centraux sont dans la partie adverse, les latéraux sont sur les latéraux, et donc en fait, tu vois ce que tu as envie de voir, parce que tu demandes quelque chose à ton équipe. En équipe de France, on sait que ce n'est pas encore ça, je pense qu'on va y arriver parce qu'on sent qu'il y a cette intention d'aller un peu plus haut, d'aller chercher plus haut. Mais je pense que tu peux seulement voir réellement ce qu'un joueur va te donner par rapport à ce que ton coach va te proposer, va te demander d'aller chercher.
Et c'est ce que j'allais dire. Bien sûr, tu as raison.
Donc le responsable, c'est Deschamps.
Non,
Non, mais moi, je l'ai fait dans mon avis tout à l'heure. Moi, je ne veux même plus l'incriminer de quoi que ce soit, puisqu'il est comme ça. Il ne va pas changer. Par contre, si tu parles de la suite, bon, en effet, c'est pour ça que j'ai posé la question à Gaël. Est-ce que c'est un... Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais en fait, la heat map. Pour moi, c'est ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui. Où est-ce que les joueurs touchent le ballon? Eh ben, pour moi, on a maintenant les 5 couloirs de Guardiola que tout le monde visualise à peu près. Lui, il est dans l'interespace, donc droit du terrain. Ce que je veux dire, il est dans l'interespace entre le couloir latéral et le couloir central. Mais quand t'es numéro 10, c'est pas facile de venir là. C'est plus facile d'y venir quand t'es ailier, parce que le latéral, il va pas beaucoup te suivre comme ça. Et donc tu viens et t'es souvent fuyant, comme faisait Messi, comme faisaient beaucoup de joueurs comme ça, qui jouaient pied gauche, faux pied, qui rentrent. Ou Robben, ou Ribéry, au Bayern. Mais ensuite, c'est l'animation collective qui va permettre aux joueurs de... Et je finirai juste
par... Oui, mais le fait de disparaître, moi la question c'est...
Oui, mais tu disparais parce que collectivement, t'es moins bien. Si t'es dans un temps fort, tu vas le voir. Si l'équipe est dans un temps faible, il y aura plus de...
Est-ce que c'est pas rédhibitoire au très haut niveau?
Pour schématiser, c'est ça en fait. Si t'es numéro 10 et que tu joues contre hier, ils étaient un milieu à 3.
Islande.
C'est 5, ouais, l'Islande, ils étaient à 3. Ben, en fait, si ton 10 est sur le côté droit, t'as la sentinelle qui va être sur le... côté droit sur le 10, il n'y a pas de problème. Si tu arrives à créer justement cette incertitude autour du 6, avec un attaquant par exemple, ou ton ailier qui rentre pour libérer effectivement le couloir, ben peut-être que maintenant tu as 2-10 autour de leur 6. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire le 6? Est-ce qu'il va aller sur Olise et laisser Marcus Thuram seul ou est-ce qu'il va rester sur Thuram?
Oui, mais là, Gaël, tu parles avec le ballon. Moi, oui, je parle comment aider ce double pivot quand tu vas être dans la machine à laver contre l'Espagne, contre l'Argentine. C'est ça qui m'intéresse.
L'objectif, ce serait de ne jamais être dans la machine à laver.
Mais tu peux pas, c'est pas possible.
Les gars, on fait une pause, c'est passionnant. On va prolonger, bien sûr, encore sur l'équipe de France. On parlera de Kylian Mbappé.
On récupère une heure
également.
De l'affaire foot, apparemment.
Bien sûr. Restez avec nous, Gaël Clichy, notre invité ce soir dans Génération After avec Jimmy, Walid et Kevin. On revient dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Kevin Diaz, vous voulez la chercher, Jimmy Brown, notre invité ce soir, Gaël Clichy, et dans Génération After jusqu'à 22h. On parle de ta carrière dans la deuxième heure de l'émission. Vous êtes sur RMC. Alors, des messages sur le chat YouTube et également sur notre WhatsApp. Tiens, Patrice nous dit merci, Gaël, pour toutes ces informations sur l'équipe et le système de jeu. Puis, alors, je vais mettre le feu un peu. Vincent dit bonjour, l'After. Walid, tu n'as aucune crédibilité. Tout le monde sait que tu rêves de Cherki en 10. Voilà pourquoi tu es dur avec Olysée. Je dis que je te place comme ça.
Pas du tout.
Pas la réalité.
Pour moi, Cherki en impact player peut servir, mais de là être titulaire en équipe de France.
Il a encore du chemin. On peut quand même demander à son ancien coach en espoir.
Regarde là, les beaux du petit déjeuner.
Il voulait y aller sur rien de Cherki.
C'est la grande explication.
Il y a un petit désaccord. Pas sur le talent du joueur, bien sûr. Mais
tu vois comment il élimine.
Il élimine le débat.
Moi, j'ai dit que Cherki était pas bon comme joueur de foot.
Non, t'as dit qu'il avait des gros doutes sur l'aptitude.
Comme par exemple un Désiré Doué, il y a encore plutôt un an et demi, mais il a encore quelques reflux comme ça qui reviennent, que pour moi Ryan Cherki est très talentueux mais doit encore faire un step énorme. Et c'est très bien qu'il soit avec Guardiola parce que c'est le meilleur pour les
jeux sur...
Non, il le voyait pas à ce niveau là en gros
pour moi il est pas encore au niveau.
Allez, vas-y, Gaël, sur Ryan.
Tu vois où je veux en venir, quoi.
Ryan,
n'a rien compris.
Ryan, ce que je vais dire, c'est fou, mais en même temps ça a du sens. Dans la phase sans ballon, il a d'énormes progrès à faire. Et c'est vraiment son premier défaut. Si Pep arrive à élever son niveau dans cette partie-là du football, je pense qu'on pourrait voir des chiffres très proches de Kevin De Bruyne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un joueur que... En fait, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un joueur avec autant de facilité dans les petits espaces. Et on connaît Pep Guardiola. Et puis en plus, quand on joue contre des équipes comme hier, des défenses à 5 et milieu à 4 ou à 3, ce que City se coltine chaque week-end, c'est les joueurs qui vont faire la différence. Par contre, on sait aussi qu'il y a la phase off-def en transition quand tu perds le ballon. Et là, il faut pouvoir répondre présent, encore plus en Angleterre. Moi, c'est vraiment le point d'interrogation que j'ai sur Ryan, et c'est ce qu'on voit.
Et les chiffres dont tu parlais sur Olysée, dans ton rapport, hein, je te demande pas de nous les donner s'ils sont vraiment pas bons, mais c'est quoi les chiffres de l'activité? Parce que le débat sur Ryan Cherki, c'est jamais...
Mais il t'a dit qu'il avait des progrès à faire sans ballon.
Non, est-ce qu'il est... Pas qu'il
fallait plus loin encore.
Même avec le ballon. Moi, je parle avec et sans le ballon. Parce que avec le ballon, faut aussi courir pour les autres. Tu vois, pas courir que pour toi.
Attends, avec ballon. Ryan, sur la période où on est, je crois sur 13 buts, je crois, ou sur certains buts qu'on marque, il est à 9 buts et 6 passes D. Donc en fait, c'est un joueur qui, même s'il est moins bien dans un match, il a tellement de qualité que quand t'as besoin, on joue contre l'Italie dans la deuxième saison, donc l'année dernière, on perd 2-0, on est à la rue, une passe, un but. Mais la passe, c'est une passe, tu vois, que personne ne voit. Et donc en fait, ces joueurs-là, c'est très compliqué à gérer parce que, quelque part, je me rappelle, j'avais une relation qui était sympa avec lui, et en fait, il me regarde. Et du genre, tu sais, t'inquiète, je vais vous donner ce dont vous avez besoin, tu vois. Et c'est déroutant parce qu'en fait, tu te dis, mais c'est le niveau moins de 21. Et il y a un vrai gap. Donc en première ligue, il va falloir qu'il élève ce niveau-là hors possession parce qu'en fait, tu ne peux pas. City, tous les buts qu'ils prennent, c'est sur des transitions. Et si tu as un joueur, voire deux, qui sont un peu à la traîne dans ce compartiment-là.
Faut faire une parenthèse, okay, là, parce qu'on a un petit invité au téléphone que tu connais bien, Gaël, qui nous a appelé. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Ou quoi ?
C'est le journaliste masqué.
Ah, mais j'ai reconnu direct.
Il a reconnu la voix.
J'ai reconnu direct.
Voilà, là, mon cher Julien Laurence qui est avec nous. Là, c'est méga frérot, Gaël Clichy, je crois.
Ah, c'est la famille. Je suis très content qu'il fasse ses débuts dans Génération After ce soir. Hein. Il a augmenté le niveau d'intellectualité, de.
Ah oui, d'accord. D'analyse. Pas de français, toi, en revanche, mais c'est normal, tu viens d'Angleterre.
Ouais, salut, ça va?
Ça va, et ton
Julien genre était ton témoin de mariage ou c'est l'inverse?
C'est l'inverse, ouais, c'est l'inverse.
Témoin de mariage, Julien Laurence.
Ouais, c'est ça, ouais.
D'accord, ouais.
Ça remonte aux années Arsenal et à Highbury, hein. C'était Highbury, hein. Donc
exactement.
Ça ne nous rajeunit pas, mais. Il m'a fait un petit peu sur l'émission. Il m'a dit, il m'a donné un petit peu les options, les idées, qui est qui fait quoi, qui punch. Donc je le remercie. Ouais.
Okay, Julien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Gaël, justement, le joueur qu'il était, surtout l'homme aussi qu'il est, quoi.
Ah, c'est, l'homme, c'est le meilleur, déjà. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est quelqu'un d'extrêmement loyal, honnête, qui donne tout pour ses proches. Donc ça, déjà, c'est le plus important. Après, le joueur, c'était... voilà, on est arrivé quasiment en même temps à Londres. On était jeunes, tous les deux. Lui, jeune joueur de foot, et moi, jeune journaliste. Et c'est vrai qu'on a accroché tout de suite. Et puis après, ça fait 20 ans maintenant qu'on est toujours là l'un pour l'autre. Et puis après, il y a le... Moi, ce que je considère le futur, il va être un grand entraîneur, il le sait déjà, il a des idées incroyables. On a passé des heures et des heures ensemble à décortiquer des choses, à regarder, à analyser, à en discuter, à en rediscuter. Et bon, voilà, pour moi, il a un avenir exceptionnel devant lui sur un banc maintenant. Et j'ai juste hâte que ça se mette en place.
Voilà, Gaël, tu veux réagir ?
Ouais, ben non, on a passé beaucoup de temps et c'est quand on est très proche, il y a toujours beaucoup d'exigences. Et c'est vrai que juste, c'est quelqu'un qui dit les choses. Donc, il y a plein de moments où ça a été toujours un petit peu, ça a été compliqué avec ses retours, mais c'est comme ça. Et puis du coup, il fait progresser. Il connaît pas mal le ballon comme vous, messieurs. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec des personnes comme vous.
Voilà, Julien. On voulait faire ce clin d'œil parce que Julien prend l'Eurostar là. Il avait 3 minutes pour te parler. Il voulait absolument te passer le bonsoir ce soir. Drôle de dame anglaise. Merci, Jules.
Busy, il est toujours busy, Julien. Toujours en train.
C'est comme mettre Gims en showcase. Il a 4 plateaux jusqu'à 1h du matin.
Ah ouais, c'est vrai.
Exactement.
Ah,
c'est-à-dire que là, il est.
Tu fais quoi ? Tu prends le train ? Pourquoi ? Tu quittes Paris pour l'Angleterre ou tu...
Ouais, c'est ça. J'étais à Rennes aujourd'hui pour la Ligue 1, pour Ligue 1 Plus. On a fait des très bons sujets sur Ousmane Dembélé, les années rennaises. C'était très très bien. Et donc là, je rentre à la maison maintenant.
Très bien. On te retrouve très vite, Julien, dans l'after. Et avec les drôles dames. Bonne soirée.
Salut, Julien.
Bon voyage, Julien.
Ciao, ciao. Salut,
mon frérot. On va prolonger, pas forcément sur Cherki, je crois qu'on a compris. L'avis de Gaël sur Cherki également, et encore une marge de progression défensivement, dans le travail défensif en tout cas. Tombe bien parce que dans un instant on va parler du travail défensif de Kylian Mbappé. Longue interview de son père, de sa mère, de lui-même dans l'équipe MAG parue aujourd'hui. Tu vas nous dire ce que t'en penses, si un tel talent offensif, celui qu'a Kylian Mbappé, l'exonère de tâches défensives. C'est un thème, un débat qui nous a agité depuis de nombreuses saisons déjà, avec Walid, avec Jimmy, avec Kevin. Dans un instant, la suite de Génération After sur RMC. À tout de suite.
RMC. Le football, c'est quand même... Il y a cette fameuse phrase, là je l'ai pas en tête, mais...
Daniel, je te le dis en pleine tête.
Oh, sur le lob de Clichy. Et ça va au fond.
J'ai reçu un message sur Instagram d'un fan de Servette qui me disait, si jamais, pense que le gardien est toujours avancé. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, et bon, après on tente.
(20h-22h) Génération After.
Nicolas Jamin.
Ah, on te régale, hein, Gaël, dans Génération After.
Ouais, de fou.
Des grands souvenirs.
Surtout que la musique, ils l'ont chanté juste quelques mois et puis après.
Et alors quoi ? T'as ta chanson aussi. Bon, non, quasiment tout le monde l'a, mais tu l'as aussi, ta chanson.
C'est vrai. Bon,
Gaël Clichy était avec nous jusqu'à 22h, bien sûr. 20 sélections d'équipe de France, 3 titres en première ligue, 2 coupes de la ligue anglaise. On va parler de ta carrière dans un instant. Kevin Diaz est là aussi. Jimmy Brown, Mélina Cherchour, 32-16 ouvert. Madi arrive dans un instant. Il veut parler de Kylian Mbappé, justement. On en parle du buteur français. Il a marqué contre l'Ukraine, il a marqué contre l'Islande également. Il a dépassé Olivier Giroud, mais c'est pas tant ça qui nous intéresse.
Thierry Henry. C'est le prochain.
Thierry Henry, Olivier Giroud, il va le chercher. Voilà, il y a encore une personne à aller chercher, c'est ce qu'il a dit hier après le match. Kylian Mbappé, alors évidemment, c'est un débat qu'on a et on n'est pas tous d'accord autour de la table. Je crois que Kevin, lui, t'es prêt à exonérer des joueurs offensifs très talentueux de tâches défensives ?
Non, pas du tout.
Mais d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est un débat parce qu'on voulait en parler parce que sa mère et son père ont parlé dans l'équipe magazine cette semaine. Ils ont expliqué le profil du jeune Kylian Mbappé. Elle explique notamment Kylian sur le terrain quand il joue et qu'il ne défend pas. Je reconnais aussi très bien mon fils. Depuis l'âge de 4 ans, il ne défend pas. Son père interrogeait également sur le sujet. Il défend l'idée que son fils n'a pas forcément à défendre. Il dit : je ne dis pas que Kylian ne doit pas défendre, mais à quoi on juge un joueur ? À chaque poste, sa spécialité. On critique un mec qui met 60 buts par saison. Ce que je lui reproche, par contre, c'est que s'il y a un combat pas loin de toi, viens aider, c'est ce que je lui dis. Je peux choquer en disant ça, mais la course défensive qu'a faite l'ailier du PSG Kvaratskhelia en finale Ligue des Champions à la 90e minute, je m'en fous. Kylian, ce n'est pas son jeu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre, mais s'il ne doit faire que des replis défensifs, on n'est pas dans la même pièce. Voilà, son expression à Wilfried Mbappé. Qu'est-ce que tu en penses ?
Attention, après, il y a une question du journaliste qui dit : est-ce que Kylian Mbappé est dans la même pièce ? Et il dit oui.
Non, il dit dans quelle pièce il est. Il est dans la même pièce que moi. C'est ce qu'il dit Wilfried Mbappé. Gaël, qu'est-ce que t'en penses, toi, là-dessus ? Est-ce que c'est un débat, hein ? Est-ce qu'on peut décharger d'un travail défensif profond et pas uniquement attaquer son vis-à-vis le plus proche un joueur d'un tel talent offensif ?
je pense que déjà il faut on est tous d'accord sur le fait que c'est un crack en fait. Ce qu'il a fait pour l'équipe de France, ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est avec si peu de temps, c'est exceptionnel. Après il y a plusieurs écoles. Moi j'ai connu Guardiola sur la première année à City. Un de nos meilleurs joueurs était David Silva. Je crois qu'il était à 9 km, 8, 10 km par match. Et il lui a dit, écoute mon gars, t'es le meilleur joueur qu'on a, mais dans mes équipes, on a besoin de faire un peu plus. Et au final, c'est un joueur sur 5 ans que je n'avais jamais vu passer la barre des 10 km, quelque chose comme ça. Et à la fin, il faisait des 11 km. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que tout le monde peut le faire. Et à moins d'être Messi et Ronaldo à 60, 70 buts et des trophées en veux-tu en voilà, je pense qu'il y a du travail à faire. Est-ce que son papa voit Kylian dans ce registre-là? Je sais pas. Ça c'est ce qui est beau dans le foot.
À cette hauteur-là en tout cas. Celle de Messi.
Après c'est ce qui est beau dans le foot, c'est qu'on a tous des opinions. Moi aujourd'hui en tant que coach, oui, j'aimerais que mes joueurs puissent faire un minimum. Après, est-ce que tu demandes à un joueur comme Mbappé de faire 13 km par match? Bien sûr que non. Est-ce que tu lui demandes de faire certains replis défensifs pour aider l'équipe? J'ai déjà vu Kylian le faire. Moi, depuis le début de l'année, je sens que il est plus léger. Il est plus léger sur les appuis, il est plus léger dans la tête. Je pense que cette première saison, il ne faut pas l'oublier, cette première saison à Madrid. Madrid, c'est le club qui est différent de tous les autres clubs en Europe. Et c'est un poids énorme. On parle avec Anelka, on parle avec Beckham, on parle avec tous ces joueurs-là. Jouer à Madrid, porter le maillot, c'est un poids énorme. Donc cette première saison digérée, comme il a pu la digérer et comme il a pu jouer, je pense qu'en fait il a été là-bas pour marquer des buts et il a marqué des buts. Je pense qu'on verra un visage différent, pas parce qu'il n'a plus rien à prouver, mais parce qu'en fait aujourd'hui je pense qu'il arrive à une maturité. On va pas lui faire 13 km par match, mais je pense que comme on peut le voir et les demandes du coach peut-être Alonso qui est justement de la trempe de ses nouveaux entraîneurs, le collectif, la structure et tout le monde doit bosser.
Tu penses qu'il va réussir à le convaincre? Parce que Luis Enrique essaie de le convaincre de travailler plus défensivement, il n'a pas réussi à le faire.
Non, mais c'est Madrid. Et vraiment, pour avoir parlé avec Ancelotti me disait Madrid, c'est un club à part. Il me dit un enfant de 6 ans qui se trouve en Inde, qui se trouve en Angleterre, qui se trouve en France, rêve un jour de porter le maillot du Real Madrid.
Ancelotti n'a pas réussi. Hein.
Non, mais en fait, ce qu'il me dit, c'est que c'est un club qui est différent. Il me dit à Manchester United, si tu es de Manchester, tu rêves de jouer pour Manchester. Mais quelqu'un qui est catalan ne rêve pas de jouer pour United. Et il me dit, Madrid, c'est le seul club qui engage autant de monde. Donc en fait, quand tu vas à Madrid, je ne dis pas qu'on va le convaincre, mais je pense qu'il y aura des choses qu'on ne l'a pas vu faire au PSG. On va le voir faire et réaliser.
Sur le début de saison,
il
y a deux choses à décrypter.
Rapidement, quand on lit les déclarations de Faïza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, et de son père, Wilfried Mbappé, on imagine qu'il prolonge la pensée du fils également. Il regarde ça presque avec tendresse. Hein. Kylian a toujours été comme ça, c'est ainsi, il n'y a pas de problème.
Non, mais voilà. Il le confirme avec la deuxième question que tu viens de répéter précédemment. Il y a deux choses à décrypter. Déjà, la première des choses, c'est que, bon. On n'en fera peut-être pas des caisses ce soir sur l'interview de Kylian Mbappé, mais j'ai trouvé très très bon. J'ai trouvé très bon l'interview de Mbappé, mais on a aussi vu les autres interviews, notamment de la famille, de la garde rapprochée. Et moi, j'étais quand même très surpris des propos du papa, parce que j'imaginais que le papa avait une vraie emprise sur le joueur, notamment avec beaucoup d'exigences, en essayant de le remettre en question. Et là, pour le coup, je trouve qu'il prend.
Il lui rend pas service.
Ouais, non, il prend la chose d'un côté différent.
Subjectif, en tout cas, c'est mon fils.
Exactement. Et surtout,
il dit, je suis encore son coach et son père à la fois.
Ouais. Et moi, ce que je n'ai pas aimé dans sa démarche footballistique et dans son avis footballistique, c'est qu'il parle de la. Il dit, on n'est pas dans la même pièce. Ça voudrait dire que donc Xabi Alonso n'est pas dans la même pièce que lui, que Luis Enrique n'est pas dans la même pièce que lui.
Non, il compare avec Barça, je pense.
Oui, bien sûr. Mais en fait, quand il parle de la même pièce, moi, comment je le comprends, c'est cette vision du foot là, où en gros, on demande aux attaquants de défendre. Les attaquants sont là pour marquer. Les attaquants sont les attaquants. S'il veut faire semblant entre guillemets de faire de faire un ou deux replis défensifs, pourquoi pas, mais de là à défendre, parce que l'image de Kvaratskhelia, c'est l'image qui a fait tout le tour du monde, et il y avait beaucoup de visions qui s'opposaient en disant, est-ce que tu gagnes la Ligue des Champions avec Kvaratskhelia ou avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain? Et moi, j'estime que je suis plus du côté de, c'est avec un Kvaratskhelia qui se met au service du collectif, qui se met minable pour le collectif, parce que quand ça va être dur, quand le football contre Arsenal, contre Dortmund, contre le Barça, contre l'Inter Milan, quand tu vas aller chercher des hauteurs très très hautes, et ben l'effort avec ballon ne suffit plus sur ces hauteurs-là. Et Kvaratskhelia a énormément apporté du côté du Paris Saint-Germain. Sur Kylian Mbappé, qui met 60 buts, et nous ça nous dérange pas, 60 buts c'est exceptionnel, et il y a très très peu de joueurs qui peuvent se targuer de faire ces choses-là.
Maintenant le, gros problème, c'est quand tu mets les buts, quand c'est compliqué, est-ce que tu mets les buts? Et surtout, est-ce que ton leadership ne déteint pas sur le reste de l'équipe? Et moi, ce qui me dérange avec Kylian Mbappé, encore une fois, si on doit le comparer à Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo, c'est que ces deux mecs-là mettaient des buts, mais mettaient des buts contre Huelva, contre Alavés, contre le Deportivo La Corogne, mais aussi en finale de Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions, en quart de finale de Ligue des Champions.
Mbappé, il en a mis 4 en finale de Coupe du Monde. Hein.
Je parle de club, là. On parle de football de club. Parce que je l'ai déjà dit, mais en équipe de France, c'est un monstre et il peut rentrer dans la légende cette année avec cette troisième, peut-être, finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais pour en revenir sur le football de club, c'est-à-dire que contre l'Atlético de Madrid, c'est compliqué, c'est difficile, pas de but. Contre Arsenal, aller-retour, c'est difficile, c'est compliqué, le collectif est en difficulté, pas de but. C'est ça aujourd'hui.
Il est pas le seul responsable de ça.
Mais
non
il est
plus.
Il est pas seul responsable.
Pas alimenté, il a quand même marqué contre le Barça.
Non, je parle des grosses échéances de Ligue des Champions. Le 4-0 contre le Paris Saint-Germain notamment, pas de but. Et quand il y a pas de but pour Kylian Mbappé, tu vas essayer de gratter sur son match, sur son apport, sur l'apport dans l'attitude, dans le leadership et dans l'effort sans le ballon. Et quand je parle d'effort sans le ballon, c'est pas forcément derrière le but, c'est même dans les appels, dans tout ce qu'il va réaliser. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé, la question elle se pose là-dessus, surtout que on a vu un Vinicius avec et sans Mbappé, c'est-à-dire que l'année dernière, on a vu un Vinicius qui ne défendait beaucoup moins que l'année d'avant sans qu'il y ait Mbappé.
C'est paradoxal ce que je dis, parce que en fait s'il était aussi décisif tu l'exonérerais, parce que Messi il déconnectait complètement, il défendait pas du tout,
mais sauf que les deux
encore moins que Mbappé, Ronaldo,
les deux cases ne sont pas remplies en
pour l'instant. Il a fait sa première saison à Madrid,
mais bien évidemment
je pense surtout qu'il faut arrêter de parler de Messi et Ronaldo. Messi et Ronaldo, c'est des joueurs qui sont pas de la même planète que tous les autres joueurs qu'on a vus sur les 20, 30 dernières années peut-être. Donc il y a toujours des anomalies. Et les anomalies, ce sont ces deux gars-là. C'est-à-dire que ce ne sont pas des joueurs comparables. C'est incomparable. Et ça, qu'on veuille ou non, je pense qu'il faut que tout le monde l'entende. Ensuite,
Walid, il se compare à ces deux-là.
C'est son droit, mais c'est le nôtre de ne pas le comparer à ces joueurs-là pour l'instant, en tout cas. Ensuite, t'es un peu paradoxal, parce que tu viens de me tirer une tirade que tu as complètement de façon différente pour Ryan Cherki, qui est aussi un joueur qui joue beaucoup avec le ballon, certes à moins de stats, mais aussi à moins d'attente, moins de plus jeune, etc.
Mais c'est deux joueurs très différents.
Oui, avec ça reste deux joueurs offensifs.
Différents.
Ça reste deux joueurs offensifs.
J'ai pas la même exigence envers Ryan Cherki qu'avec Kylian Mbappé. Oui, lui-même le dit dans son interview. Non,
c'est théorique qui t'explique.
Oui, ce que je te parle de théorie, parce que Ryan Cherki ne met pas 60.
J'ai jamais nié les problèmes défensifs.
Non, mais je te dis juste.
Restons sur Mbappé.
Je te dis juste que pour moi, j'allais dire, il y a deux visions du foot qui s'opposent. Il y a la vision du foot en mode que ce soit la famille, et je ne leur reproche pas, ou les fans du joueur, hein, le mode fanboy du joueur, soit c'est mon gars, soit c'est mon frère, soit c'est mon fils,
soit c'est mon joueur.
Ouais, donc ça veut dire que peu importe ce qu'il fait, c'est incritiquable parce qu'il met 60 buts, etc. Donc ça vaut pour Mbappé, ça valait pour une certaine forme de Neymar que j'aimais moins sur la fin de sa carrière, ça vaut pour Cherki, ça vaut pour d'autres. D'accord? Et puis après, il y a l'autre vision du foot. Et malheureusement, pour la première partie, c'est la deuxième vision du foot qui gagne aujourd'hui en club. C'est
après ça peut changer.
En tout cas pour l'instant, sur les 10-15 dernières années, c'est un Real avec Ronaldo, mais un Real quand même très collectif, avec un gros milieu de terrain, avec des gros défenseurs, on se rappelle quasiment du 11 type. C'est un Barça, je n'en parle même pas. C'est un Liverpool. Le Liverpool de Jürgen Klopp qui gagne la Première Ligue, qui fait deux finales de Ligue des Champions, qui en gagne aussi, c'est trois attaquants qui se mettent minables, et pourtant c'est des monstres aussi en termes de productivité, mais Salah, Firmino, ça se crève pour le collectif, et c'est ces équipes-là qui ont gagné.
Oui, mais est-ce que le problème, tu parlais du Real de Ronaldo, est-ce que le problème c'est qu'il est peut-être pas aussi bien entouré que Ronaldo l'était au Real?
Possiblement, bien sûr.
Ça l'exonérerait peut-être de ses courses défensives.
Possiblement, mais aujourd'hui, le football, on en parlait avec Gaël avant l'émission, le football, c'est un contexte. Où arrives-tu? Avec qui arrives-tu? Et qui t'entraîne?
Enfin, excusez-moi, les gars, quand tu parles du Real Madrid, ils jouent pas avec avec Jean-Pierre.
Ouais, ils jouent pas avec Toni Kroos, Modric,
aujourd'hui, à l'heure actuelle, par rapport, si tu regardes l'effectif du Real Madrid, je pense que t'es très bien pourvu en qualité à toutes les lignes. Ils viennent de recruter Alexander Arnold, Carrera,
là, aujourd'hui, maintenant.
si t'es honnête, non mais si t'es honnête, tu n'es pas avec le milieu de terrain Casemiro, Modric,
Prime. Mais c'est le même Mbappé, Kevin, qui disait que l'équipe du Paris Saint-Germain n'était pas assez forte, que le recrutement n'était pas assez bon,
que peut-être l'équipe du Paris Saint-Germain n'était pas aussi forte que celle-ci. Attention, moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le PSG n'aurait pas pu gagner la Ligue des Champions avec Mbappé.
Ils étaient très proches de la gagner, puisqu'ils font face à Bayern Munich de gagner la Ligue des Champions.
Et puis même, ils font demi-finale l'année d'avant avec cet entraîneur. Mais malheureusement, pour lui et pour ce camp-là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ça aurait pu l'être. Ça, il faut le dire quand même. Il faut être honnête.
Oui, mais le raccourci, il est facile de dire avec Varane, tu gagnes avec Mbappé. Et on a dit aussi
que quand tu arrives au Real, donc en l'occurrence pour lui, il arrive sur la fin de Toni Kroos, meilleur passeur peut-être de l'histoire sur les 20 dernières années, qui aurait pu lui en mettre 2-3 galettes, même contre le Real, même contre le Barça, même contre Arsenal, même contre n'importe quelle équipe.
Donc il y a aussi un timing qui lui sied pas vraiment.
Je vais écouter, on a un invité, c'est Gal Kishi, s'il vous plaît. Okay, mais juste dernière phrase avant de il faut dire aussi que il aurait pu rejoindre le Real 3 ans avant, c'est lui qui a décidé de rester au PSG.
On est trop dur avec Mbappé, les médias en général.
Bah en fait, quand c'est capitaine de l'équipe de France et ce qu'il nous a donné, on est obligé d'être intransigeant. On est obligé parce qu'aujourd'hui, je rebondis sur ce que Kevin a dit, les équipes qui gagnent, c'est des équipes qui jouent en équipe et donc il n'y a pas un joueur qui faillit à travail sans ballon. Donc en fait, on ne dit pas qu'il doit faire 13 kilomètres, on dit juste, moi en tout cas, ce que je vois depuis le début de cette saison, c'est qu'il a eu 3 semaines de vacances et qu'il a eu une période de 3-4 semaines où il s'est entraîné 2 fois par jour. Et qu'on voit un Kylian un peu plus léger. On voit un Kylian qui se rapproche de ce qu'on a vu quand il était un peu plus jeune. Et je suis sûr qu'avec, dans le timing de capitaine équipe de France, une Coupe du Monde à aller chercher, peut-être une remise en question, une maturité en fait qui grandit aussi, je suis sûr qu'on va avoir un Kylian qui va faire beaucoup plus d'efforts et qui va être incroyable.
Gaël, tu préférais pas le Mbappé qu'on a découvert à l'époque à Monaco, de ses premières saisons au PSG, plus spontané, certainement plus véloce aussi qu'aujourd'hui.
Moi, il y a quelque chose dont, en tout cas, je ne peux pas vraiment parler de ça. Je peux juste en parler parce que j'ai côtoyé ces joueurs-là.
Oui.
C'est très dur de porter une nation et de porter un club. Et aujourd'hui, je pense que Kylian est là. Quand on prend Messi, en fait, sur 20 ans, je ne compare pas Messi et Ronaldo, mais quand on prend Messi qui, pendant 20 ans, à bout de bras, tient Barcelone et tient l'Argentine, quand on voit Ronaldo, ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui avec le Portugal, je pense que Kylian, c'est la même chose. Et en fait, tant qu'on n'a pas été dans ces conditions-là, c'est très difficile de parler parce que il y a beaucoup de choses qui se passent.
De toute façon, il en est conscient. Il l'a dit très bien dans l'interview.
Il a dit dans l'interview.
Et même son papa, il dit quelque chose de juste. Une saison ratée de Kylian Mbappé est une saison exceptionnelle pour un autre joueur. C'est sa réalité. C'est les standards qu'il a mis.
Kevin a dit, effectivement, il y a 3 ans, s'il part au Real de Madrid il y a 3 ans, bien sûr, on est en train de supposer et on assume certaines choses qui ne seront jamais. Mais je pense que s'il part il y a 3 ans, il est l'attaquant peut-être légendaire de cette équipe. Ça, c'est une certitude. Ce sera sûrement,
aujourd'hui. Il est dans un processus au Real Madrid. Mais moi, juste ce qui me dérange par rapport à l'interview, après, il faut savoir que l'interview a été écrite
en juin dernier.
Après la Ligue des Nations, parce qu'il dit à son papa notamment qu'ils avaient perdu contre l'Espagne 2-3 jours avant. Donc, moi, ce qui me dérange, c'est que, en fait, ce que je lis, c'est pas du tout ce que je vois sur le terrain en ce moment. C'est-à-dire que pour le coup, le leadership, l'attitude au Real Madrid et avec l'équipe de France, je trouve qu'elle est en nette amélioration là-dessus. Et j'ai même vu sa communication, je sais plus, parce que j'ai vu qu'il a fait la tournée des popotes sur les derniers jours, je crois que c'est sur M6 ou je sais plus où, il dit « aujourd'hui, il faut se mettre minable ». Pour aller chercher ces titres-là, cette saison, la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions, il faut se mettre minable. Donc même dans le discours et dans ses actes, je vois un Mbappé nouveau. Et j'ai envie de croire à ce Mbappé nouveau. Et là, on repart encore une fois sur...
Mais c'est pas lui qui parle, c'est son père. Et dans une optique de défendre son fils sur le moment, tu vois, c'est aussi ça. Il faut l'interpréter comme ça, il faut pas se tourner.
Bon allez, je vais accueillir Madi au 32-16. Bonsoir Madi. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de ta patience, Madi. Tu voulais parler de Kylian Mbappé, justement. Je crois que tu as du mal à comprendre le traitement qui est réservé à Mbappé. Tu parles de quel traitement ? Sur quel sujet, surtout ?
Tout ce qu'on vient d'entendre, c'est l'illustration de ce que je ne comprends pas. Parce que tout ce qui est dit, je ne le comprends pas. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous parlez, vous dites une critique négative, et derrière, vous prenez toujours le soin de dire « Oui, mais attention, c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel. » Mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer les phrases par « C'est un joueur exceptionnel ?» mettre un point et puis s'arrêter là, en fait.
On s'ennuie un peu. C'est pas une question d'ennui, Jimmy. C'est juste on est hyper exigeant avec ce joueur qui est l'étendard français, parce qu'il a un talent exceptionnel. Et il pourrait être encore plus et peut-être rejoindre un jour, je sais pas, ça c'est un autre débat, la galaxie des plus grands attaquants de l'histoire du foot.
Pour moi, il y est déjà. Hein.
Il est déjà.
Mais pourquoi il n'y est pas? Pourquoi il n'y est pas? Parce que je vais reprendre. En fait, vous avez dit énormément de choses. On l'entend très souvent. Mais une chose qui me marque, c'est attention, je ne compare pas. Chaque fois, vous avez commencé les phrases par attention, je ne compare pas Mbappé avec Messi et Ronaldo. Mais pour quelle raison?
Parce qu'il est incomparable.
Attendez. Juste, avec qui tu compares Mbappé aujourd'hui? Si tu ne le compares pas avec Messi et Ronaldo, avec qui tu compares
Mbappé? Non, mais tu peux prendre la question à l'inverse, Mathis. C'est qui tu compares avec Messi et Ronaldo?
Moi, je peux te comprendre. Moi, je peux te répondre très facilement.
Si tu me poses la question, Kevin, tu
réponds avec qui tu le compares.
Bah, tu le compares avec Mossala, tu le compares avec Lewandowski, tu le compares avec Haaland, tu le compares avec plein de joueurs, en fait. Pourquoi
allez, Madi.
Jamais de la vie. Ah ouais, champion, okay. champion du monde.
Ok.
Bah, laisse-le parler.
Attendez,
Kevin, laisse-le parler.
Non, mais sinon, faites-le.
Vas-y, Madi.
J'ai peut-être pas de parole.
Vas-y.
Je le prends et après, vous me répondrez. Mais pourquoi vous pouvez, moi je vais vous répondre pourquoi vous pouvez pas le comparer ni à Lewandowski, ni à Mossala, et ni à Haaland. Simplement son palmarès, le nombre de buts qu'il marque par saison. Le type est arrivé pour la première année, il a joué sur une jambe, avec un demi-cerveau, je pense, près du burn-out, il a fini pichichi. Le mec est terminé premier meilleur buteur du championnat d'Espagne. Moi, franchement, ce soir, j'ai envie de réhabiliter ce type parce que, en fait, je pense qu'on est un pays de clochards du football. On ne sait pas reconnaître
les
joueurs. Ouais, je pense vraiment.
C'est excessif,
je pense qu'on ne sait pas reconnaître. On ne sait pas reconnaître nos grands joueurs. Partout, ce type serait vénéré dans tous les grands championnats et tous les grands pays, toutes les grandes nations du football. Ce type serait vénéré. En fait,
il n'est pas vénéré en France. Il n'a pas été vénéré pendant un long moment.
Là, il a raison. Il n'est pas vénéré. Il a été plus jeune en 2018.
C'est un peu dur. Il n'est pas que critiqué, Mbappé. Il a énormément de défenseurs.
Il y a eu des grandes périodes de Kylian Mbappé où dire un mot de travers sur Kylian Mbappé n'était pas possible dans les médias. Derrière, ça s'est inversé par rapport à sa communication, par rapport à sa gestion, notamment au Paris Saint-Germain, de ses transferts. Je pars au Real Madrid, je pars pas au Real Madrid. Il y a eu des questionnements là-dessus. Il y a eu des performances, qu'on le veuille ou non, collectives. Parce que le football, c'est pas du tennis, m'a dit. C'est-à-dire que, à un moment donné, enfin, on parle de 60 buts, c'est plutôt 40.
40
que 60 buts, mais c'est très très bien ce que fait individuellement Kylian Mbappé.
Mais en termes de palmarès, c'est pas comparable à Messi et Ronaldo. Non, mais même en termes de palmarès.
Et aujourd'hui, je parle, parce que pourquoi ne pas comparer à Lionel Messi et à Ronaldo? Parce que déjà, moi je l'ai déjà dit, il y a à dissocier le football de club, le football de sélection. Moi je l'ai déjà répété, ce qu'il est en train de faire en Coupe du Monde, c'est hors du commun et qu'il va jouer pour être le meilleur joueur de la compétition en 2026 à la Coupe du Monde. Par contre, aujourd'hui, à 26 ans, par rapport au trophée gagné en club, par rapport à l'aura, par rapport au gros match de Ligue des Champions, tu ne peux pas comparer Kylian Mbappé à Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo. Attends, qui sont dans une autre galaxie.
Non mais Gaël, tu disais, pour toi, il est tout en haut déjà.
Oui, pour moi, il est tout en haut parce qu'en fait, faire ce qu'il fait en Coupe du Monde et donner la deuxième Coupe du Monde à son pays, c'est exceptionnel. Ce qu'il fait, moi, je l'ai découvert à City contre Monaco, c'était incroyable. Encore une fois, je suis d'accord un petit peu avec la personne qui est là, c'est qu'en fait, on analyse Kylian sur une saison qui est apparemment mauvaise, mais il termine bien
meilleur buteur de
du championnat. Il est payé pour ça. Donc en fait, oui, bien sûr, on n'est pas là en train de dire qu'on ne l'admire pas et qu'on n'aime pas ce qu'il fait. On dit juste qu'en fait, ces joueurs-là, on est tellement critiques parce qu'en fait, c'est lui qui va nous faire aller chercher une Coupe du Monde et que quelque part dans le football d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est effectivement un peu plus d'efforts. Est-ce qu'il doit faire comme l'ailier gauche du PSG? Non. Est-ce qu'il doit faire un minimum comme il fait depuis le début de cette année? Oui. Et en fait, c'est juste ça. On n'a pas dit qu'il n'était pas dans le top des attaquants. On dit juste qu'en fait, comme on parlait d'Olysée, comme on parlait de Thierry Henry, comme on parle de Franck Ribéry, il y a toujours des petites choses à améliorer. Et en fait, on parle juste d'une chose à améliorer.
Mais, très bien. Mais Gaël, si tu me permets, en fait, si vraiment tu veux, si on dit Mbappé, il n'est pas de la planète d'un Messi.
Oui.
Mais alors, du coup, c'est pas par le prisme de l'effort sur le terrain qu'on va le comparer, en fait.
Non, mais
je veux dire, du coup, c'est pas ça qu'il faut dire. Mais oui, mais.
Bah, Messi, il fait gagner 5 Ligues des Champions.
Bon, après, on peut essayer d'arrêter de comparer les joueurs, les légendes, ouais, les joueurs.
Messi nous a donné, je crois, 91 buts sur une année civile. En fait, c'est des choses qu'on a. En fait, Messi et Ronaldo, en fait, je sais pas si j'ai raison ou tort, mais en fait, Messi et Ronaldo ont changé, en fait, la façon dont on vote pour le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or était un trophée par rapport au trophée gagné en club et par rapport à ce qu'on a réalisé sur une année entière. Aujourd'hui, quand t'avais un joueur qui marque 91 buts dans une année, oui. même s'il a pas gagné la Copa del Rey, c'est très compliqué d'aller contre le fait que ça a été le meilleur joueur. Et c'est juste ça, en fait, qu'on veut dire. Mais bien sûr que Kylian fait partie des très bons et des très, 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 très bons. Aujourd'hui, il y a même pas de question là-dessus.
Et puis surtout, même sur la sévérité, moi, je suis désolé, on sort d'un rassemblement où on a dit que du bien sur Kylian Mbappé, alors que moi, par exemple, son match techniquement sur le dernier contre l'Islande, je l'ai pas trouvé extraordinaire, mais par contre, l'attitude, le leadership, tout ce qu'il fait est positif, il est disponible.
Sur
le début de saison avec le Real Madrid, on a dit que du bien sur l'association avec Xabi Alonso. Donc là, on parle d'une interview, on parle de ce qui s'est passé l'année dernière, on parle du rapport Real Madrid avec et sans lui, du PSG avec et sans lui. Voilà, le football, c'est pas uniquement que des statistiques. On essaye d'élever le débat un peu plus. Peut-être qu'on suranalyse, mais on l'assume. Et surtout, on dit pas que des mauvaises choses sur Kylian Mbappé. Quand c'est très très bien, c'est très très bien.
C'est Walid, moi, ce que j'ai envie de dire, et après je vous laisse la parole. Moi, souvent, j'ai discuté avec les Anglais parce que je leur dis, pour moi, Patrick Vieira, les duels avec Roy Keane, pour moi, ils ont changé la première ligue en France. Et ils me disent, ouais, mais ça veut dire quoi? Que c'est le meilleur milieu? Je dis, non, c'est pas ça. C'est juste que t'as des joueurs qui arrivent à un moment donné et te procurent des sensations qui te donnent envie de dire certaines choses. Et aujourd'hui, c'est juste ça, en fait. Quand on parle de Kylian, on sent, en fait, qu'il a beaucoup plus à donner. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il ne peut pas? Je ne sais pas. Encore une fois, on lui demande pas de faire 15 kilomètres par match, mais on se dit que dans le football d'aujourd'hui et ce qu'on a pu voir avec City, avec Liverpool, avec
le PSG,
l'année dernière, on se dit qu'en fait, s'il peut ajouter ce qu'il fait d'ailleurs, ce qu'il a fait hier et ce qu'il fait depuis le début de saison, et je pense sincèrement que c'est ce qu'on va voir cette année, on va avoir un monstre sur les terrains.
Et surtout
parce que
quand des coachs mettent en place un système de jeu pour le décharger de ses responsabilités défensives, comme Deschamps l'a fait contre l'Autriche sur le match de l'Euro, enfin sur le dernier Euro, ou même un Luis Enrique qui te dit je peux pas le faire jouer à gauche, je vais le faire jouer au poste de numéro 9 pour qu'on soit meilleur défensivement et qu'il arrive sur une demi-finale contre Dortmund aller-retour et qu'il n'impacte pas statistiquement, on peut nous aussi arriver en disant bon, le rapport bénéfice-risque, si tu mets un triplé, il y a aucun souci, tu défends pas. Par contre, si tu te fais éliminer et tu passes à côté, eh ben on va le dire sur RMC.
C'est fou, Olivier, comme tu montes en tension quand tu parles.
Mais non, mais parce que on nous traite de clochards. c'est un pays de clochards. On est des fous.
Bon, Maddy, merci d'être venu. T'as animé le débat ce soir autour de Kylian Mbappé. Tu reviens quand tu veux, bien sûr. T'es ici chez toi sur RMC. Dans un instant, on va parler de ta carrière avec Clichy. T'as commencé à citer certains coéquipiers ou adversaires. On va se régaler. On a plein de questions à te poser. Bien sûr, surtout sur ta période de Premier League, Arsenal et à City. Reste avec nous, Génération After, avec Jimmy Brown, Wole Degerchour, Kevin Diaz. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Kevin Diaz, Jimmy Brown, Wole Degerchour, RMC, Génération After, 21h31, l'After, hein, prendra le relais bien sûr comme tous les soirs de 22h à minuit. Merci à tous d'être avec nous sur RMC, sur YouTube également, sur After Foot TV, sur le WhatsApp d'RMC. Vous envoyez vos messages bien sûr. Alors, Gaël Clichy toujours avec nous jusqu'à 22h. Gaël, 21 saisons professionnelles, hein, à AS Cannes où tu as été formé. Je t'ai vu passer à Cannes, c'était mes premiers matchs en tant que journaliste en national.
Il est là.
T'es avec moi, Gaël?
Oui, je suis là.
La SCAN, magnifique. Marcel Salerno, ton président, je crois, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Tout à fait.
Ouais, exact.
Quelques beaux joueurs aussi. En national. Et 8 saisons à Arsenal, 6 à City, 3 en Turquie avec Istanbul Başakşehir et 3 au Servette Genève.
Bon, quand tu l'as vu la première fois, tu pensais qu'il allait faire cette carrière-là?
Non. Je savais pas. Moi, je démarque. J'avais 21 ans, je crois. Ouais.
T'as pas senti le truc. T'avais pas la vision.
Bah, je voyais pas. Je connaissais pas encore assez bien le foot. J'avais pas le regard aiguisé que j'ai aujourd'hui, évidemment, quoi.
Il y en a deux qui l'ont vu, hein. Arsène Wenger et Damien Comoli.
Moi, j'aurais pu faire partie de ces trois-là. Ouais. C'était qui ton coach à Cannes?
En pro.
C'est pas Marsiglia. Hein.
J'en ai eu sur la première. Bah, mon année pro, on en a eu 6.
D'accord.
Ah ouais, 6
c'était Robert Bouygues.
C'est Palerme le truc, c'est quoi ça?
Robert Bouygues.
Alors, on va dérouler ta carrière, bien sûr, avec des questions très simples. Tu vas nous répondre et on pourra développer avec tes réponses. Quel est le club où tu as préféré jouer? Arsenal aussi dit en fait. Hein.
Ouais, c'est dur en fait. Je peux pas juste vous donner une réponse parce que Arsenal, en fait, j'arrive dans un vestiaire. Pour moi, c'était comme une bibliothèque en fait. J'avais juste à regarder autour de moi et puis en fait, je regarde ce que Walid fait. J'adore ce qu'il fait, ce qu'il aime pas, je le mets de côté. Enfin, j'ai pas besoin de vous citer les noms.
Bah si, vas-y, ça fait toujours plaisir.
Ouais,
en fait.
C'était les Vieira, les Bergkamp, les Canou, les.
Ouais, c'est mec-là,
avec Bergkamp. Tu peux nous raconter rapidement comment ça se fait en fait? Parce que tu viens de Cannes, on le disait.
Ouais, je suis à Cannes et en fait. Les gens dans le foot n'aiment pas parler de chance. Et moi, si je vous raconte ma carrière, vous allez voir tous les moments en fait où j'ai eu le coup du destin, une poussette. C'est incroyable.
Déjà, raconte-nous comment tu joues, tu finis défenseur. Parce qu'au départ,
je remonte loin.
Non, mais très très vite, en 30 secondes.
En 30 secondes.
C'est important dans ta carrière.
Je signe à Cannes, je suis numéro 10 en centre de préformation à Castelmoro. Et j'arrive mon premier entraînement à Cannes. Et en fait, le coach, Jean-Jacques Assot, a un papier. Il dit, OK, les attaquants à droite, les défenseurs à gauche. Donc moi, je vais numéro 10, fier, je vais à droite. Et il regarde sa liste et il manque un joueur avec les défenseurs. Il me dit, il dit, Clichy, toi, t'es là. Et je dis, mais vous avez dit, il a dit non, à partir de maintenant, t'es là. Donc, je passe arrière-gauche à ce moment-là et je suis remplaçant.
C'est fou.
Que tu l'imagines ou pas, mais je suis remplaçant parce qu'il y a un joueur qui s'appelait Grégory qui est titulaire. Et ce qui se passe, c'est qu'on fait la préparation et une semaine avant le premier match de championnat, le défenseur central se casse la mâchoire. On joue sur un petit synthétique avec une fosse et il tombe sur le petit muret, il se fracasse la mâchoire et du coup il me met défenseur central gauche avec un joueur qui s'appelait Damien Berger. Damien Berger, c'était un grand d'Avignon. Tout ce qui était en l'air, il prenait et moi en fait je récupérais tous les ballons et puis je sortais build-up from the, tu vois, construction de derrière. Donc c'est comme ça que ma carrière commence à Cannes en moins de 15. Et après, quand on passe à Cannes avec les pros, c'est la même chose. À une semaine du début du championnat, le titulaire Orlando Silvestri, qui prend un rouge sur le dernier match de championnat de la saison d'avant, donc il est suspendu pendant 3 matchs. Le numéro 2 est Stéphane Floras, qui devient numéro 1, et moi je suis là en tant que doublure, quoi. Se casse la mâchoire, se fracture de la fracture de la mâchoire.
C'est toi qui les poussais tous, les mecs, ou quoi, à chaque fois?
J'avais des assos, quoi. il se fracture la malléole. Du coup, il y a personne pour jouer à Cannes. Je joue homme du match. Et puis, à partir de là, ça n'arrête plus, quoi.
Donc, c'est pas que de la chance,
mais je peux t'en donner d'autres, hein. Je peux t'en donner d'autres.
T'as de la chance, mais faut faire ce match.
Le talent pour le faire.
Non, mais moi, je te donne un exemple. Quand je suis recruté à Arsenal, Damien Comolli, et de Nice. Et donc en fait, il rentre tous les week-ends sur Nice pour voir ses enfants, c'est sa fille, parce que je crois, je me trompe pas, il est en instance de divorce.
D'accord.
Donc en fait, il entend parler d'un jeune de 16 ans qui joue en national. T'es sur Nice, c'est à Cannes, il y a rien à faire, on y va. Peut-être que s'ils étaient de Lille, ils voient jamais Gaël Clichy, tu vois. Oui. En fait, je pousse loin, mais la vérité, c'est que les gens n'ont pas parlé de chance, mais il y a vraiment ce facteur chance qui existe.
Ce qui est dingue, c'est quelques mois plus tard, il y a Arsène Wenger qui débarque chez tes parents à Toulouse.
À Cannes, exactement.
À Cannes.
Mon père, il m'appelle après un match et il me dit, ouais, chérie, on monte avec ta mère, on vient voir Arsène Wenger, vous nous voir sur Cannes. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu dis, en fait? Rigole pas avec ces trucs-là. Moi, je suis à des années-lumière de penser à Arsenal, tu vois. On était en contact avec des clubs en France, Ligue 2, Ligue 1, avec une progression, continue. Et puis, il me dit ça, et puis, tac, on se retrouve devant Arsène Wenger. Et puis, au final, toute la planification que mon père et ma mère avaient pu mettre en place pour moi sur les années qui arrivent, tu mets tout à la poubelle et puis tu sautes dans l'avion et puis direction Londres, quoi.
Bon, quel est le coach qui t'a le plus marqué? Bon, t'as connu Wenger.
Il n'a pas répondu Arsenal ou City.
Mais il veut pas répondre, t'as compris?
Il veut pas répondre.
C'est différent.
Arsenal. Ah, si on est honnête.
Un titre Arsenal, 2 titres de Première Ligue.
Ouais, Arsenal. Tu vois, c'est une année fantastique et invincible.
Ah ouais, t'es parti des invincibles.
À jamais.
Mais t'as pas le même rôle qu'à City quand tu gagnes.
Exactement. À City, je suis titulaire. Et c'est totalement différent. Donc, si je parle sur mon feeling à moi perso, City, c'est beaucoup plus grand parce que j'apporte vraiment la pierre à l'édifice. À Arsenal, même quand je joue 15 matchs, mais même si je suis bidon, en fait, les joueurs sont tellement forts qu'on va gagner. Ça, c'est une année, tu donnes le ballon à Henry, à Bergkamp, à Canou, il va rien se passer, quoi. Tu vois, donc
t'as donné le ballon à Bergkamp.
Tu l'as gardé, ton maillot Bordeaux, là, celui-là?
Ouais, je les ai tous gardés.
Le O2, exactement, il était grand
sur les photos. À l'époque, il y avait que du L, tu vois, L ou XL. Donc, t'imagines, moi, j'étais tout frêle, tout petit. Non, c'était des années exceptionnelles, mais ouais, City, c'est quand même, c'est particulier pour moi.
C'est quoi l'équipe la plus forte dans laquelle t'as joué? Je parle d'une saison, hein. Où t'as senti que ton collectif, c'était plus fort, là.
Ouais, c'est les Invincibles.
C'est Invincible.
Ouais, les Invincibles, il y avait rien à faire. Tu regardais dans le tunnel à Highbury, vous avez connu Highbury? Ouais. Le petit tunnel, tu vois, et la peur dans le regard des joueurs. Quand ils regardaient Thierry, c'était genre, qu'est-ce qu'on peut faire?
Un empereur romain.
Ouais, t'avais un gars derrière, il y avait un ours, Sol Campbell, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi, en fait, tu vois? Tu peux rien faire. Patrick au milieu, il était seul, tu vois. Aujourd'hui, on parle de double pivot. Est-ce qu'on doit en rajouter un troisième pour rajouter de la densité? Mais non, t'avais juste Vieira et la densité, elle était là, tu vois. C'était incroyable. Robert Pires sur le côté, Ljungberg, Bergkamp, you know. Non, c'est juste, tu peux aller de chaque position et tu te dis, en fait, mais en fait, j'ai presque envie de te dire, j'aurais été vraiment un gros loser si j'avais pas fait carrière en atterrissant dans ce vestiaire-là. Tu vois ce que je veux dire?
Ça t'a beaucoup servi.
Ouais, parce qu'en fait, pour moi, ça c'est important, parce qu'en fait, tu arrives dans un jeune joueur de 16 ans, tu arrives dans un vestiaire, tu vas t'identifier à ce vestiaire. Et donc, en fait, si tu as des gens pas sérieux, des gens qui arrivent en retard, des gens qui ont du poids, des gens qui se donnent pas à fond dans leur métier. Tu apprends ce métier-là.
Bien sûr.
Moi, je regarde à gauche, à droite, je vois Vieira, on joue le samedi, je vois le lundi, et le gars, il se met minable. Maintenant, Thierry, il prenait des ballons 15 minutes par entraînement, à la fin de l'entraînement, et il travaillait son
fameux plat
du pied. Ouais, on pense que c'est un given, mais c'est pas ça. Il a travaillé. Donc, en fait, quand tu vois ça, tu te dis, OK, j'ai pas le talent, certes. Par contre, s'il donne 120%, moi, je dois donner 130%. Et tu vas réussir, parce qu'au final, on le voit aujourd'hui, hein, peu importe ce que tu fais. Si tu as cette envie et cette volonté de faire plus que l'autre, il va rien t'arriver dans la vie.
Mais le paradoxe, pardon, de cette équipe-là, qui est énorme et qui nous a tous marqués, moi, j'ai souvenir gamin d'Arsenal, c'est qu'au final, en Ligue des Champions, comment t'expliques qu'il y a eu la finale, évidemment, en 2006 contre le Barça, et le scénario de match fait que, voilà, ça aurait pu se passer autrement pour vous. Mais hormis ça, c'est une période de domination assez longue, quand même. Vous n'avez pas réussi sur le plan européen.
Ouais, moi quand je parle avec Pep, quand j'ai parlé avec lui, il me disait, tu sais, la Ligue des Champions, c'est quand même beaucoup de réussite. Et je reviens encore avec cette carte chance. Il me dit, en fait, c'est très simple. Tu débutes une finale, tu te réveilles un matin, tu as un joueur qui a mal dormi parce qu'il est anxieux, tu as deux joueurs qui ont mal dormi ou un parce qu'il est malade, et puis tu as juste un joueur qui va faire un match en dedans parce que ça arrive tout le temps. Ben, en fait, tu commences pas un match à 11, tu commences un match à
8, à 7. C'est ce qui s'est passé en
2006. Il y a le rouge.
Il y a l'expulsion.
Il y a le rouge. Il y a le rouge et il n'y a surtout pas la VAR à cette époque-là. Je pense que c'est la VAR, c'est différent, quoi.
Quel est le joueur qui t'a le plus marqué, toi? Qui t'a le plus impressionné dans ta carrière? Le coéquipier. Coéquipier, c'est important. Parce que là, t'as fait les Jungberg, les Bergkamp, les Vieira.
Ouais, c'est Thierry.
T'as fait Van Persie.
Thierry, en fait, c'était l'attaquant de 2025, il y a 20 ans. C'est un attaquant, les gens qui le connaissent, c'est le gars, il mange du foot, tu lui parles de ce qui se passe en 1860, l'équipe de France, il va te le sortir, et puis c'est un mec, je vous donne une anecdote, mais par exemple, il aimait travailler les finitions, et donc il prend à droite, un arrière-droit, qui s'appelle Justin Hoyt, en anglais, et moi à gauche. Et donc en fait, il voulait juste qu'on prenne 10 ballons et qu'on lui mette le lacet sur son pied gauche pour l'arrière-droit, et moi sur son pied droit. Donc le premier, Justin, il prend le ballon, puis banane, le ballon il part derrière lui, il se replace. Moi, c'est pareil, je fais...
T'es un peu sous pression quand tu devais faire ça.
Ouais. Juste un petit peu. Tac, centre, pied gauche, banane, ok. Un deuxième, ok. Il arrête, il va à la position de Justin, il prend pied droit, pam, lacé, ballon parfait tendu. Tac, il jogue, tu vois, tout le long de la surface, il vient à ma place, pied gauche, pam, parfait. Et donc, nous, on se regarde et bon, on a un petit peu l'appréhension, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, on se dit, bon, on est prêt, et puis il rentre au vestiaire. Ouais, donc en fait, ça te montre un peu l'état d'esprit du mec, mais aussi du club, parce qu'au final, c'était pas seulement lui. Tu vois, il y avait des mecs comme Gilberto Silva dont on parle très rarement, mais il était impressionnant, ouais, exactement. Donc, non, si j'avais pas été pro, ça aurait été une vraie faute professionnelle.
Non, mais les gens, enfin, la jeune génération connaît pas bien Thierry Henry, malheureusement, ils ont vu des images, etc. Mais nous, voilà, nous, c'était tout, le style,
la célébration, présence,
tu vois, il avait du Cantona en plus, tu vois, quand c'est la personnalité comme ça, il parlait pas beaucoup en dehors des médias, mais tu vois, sur le terrain.
Mais pour le coup, tu vois,
méchant.
On peut revenir sur l'auditeur qui a appelé. Ouais. C'est vrai qu'en France, on est quand même des champions pour, c'est pas qu'on rabaisse nos champions, mais en tout cas, on leur donne pas le chemin de la gloire aussi facilement que dans les autres pays. Et ça, c'est une vérité. Il avait un point très valide. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que, oui, il y a des gens qui passent devant lui en équipe de France, mais pour moi, il y a vraiment deux joueurs. Il y a Zidane, Henri
et Thierry.
Et quelque part, il y a aussi un peu Anelka, quoi. Pour moi, c'est les trois joueurs qui sont toujours présents dans la tête des jeunes.
Pourquoi t'ajoutes Anelka? Attends, ça m'intéresse.
Non, parce qu'aujourd'hui, je pense que tu prends n'importe quel jeune qui n'ont pas vu ces joueurs jouer. Ils connaissent ces trois personnes-là. Pour moi, c'est vraiment des joueurs, c'est des talents générationnels. Et en fait, c'est des gens comme Kylian, parce que je pense que Kylian a cet impact-là, il fait partie des personnalités dont on se rappellera dans 20 ans. Moi, si je suis pas coach dans 20 ans, il y a très peu de chances que les jeunes me connaissent. Ces mecs-là, c'est des mecs qui sont dans le temps et gravés à jamais, quoi.
Nico, il parlait des individualités. Tu as évoqué Thierry Henry, mais il faut pas quand même oublier que tu as joué avec des très très grands joueurs dans des très très grandes équipes. Il y en a d'autres hormis Thierry Henry, parce que c'est le choix un peu logique, mais
non. Ben après, tu parles de Bergkamp. Bergkamp, c'était, tu vois, pareil. Il est un peu plus âgé, donc forcément les jeunes le connaissaient pas. Mais c'était un tueur, le mec, quoi. Il y avait jamais rien qui Tu vois, quand tu ranges ta chambre, le téléphone il est comme ça, ben lui c'est pareil, mais tu lui envoies une saucisse, ben tac, contrôle, et puis il te renvoie le ballon sans problème. Donc Denis, c'était incroyable.
Sur l'aspect technique par rapport au numéro 9 d'aujourd'hui, tu sens une différence de ce que tu as connu à l'époque, les Agüero, les Van Persie, les Bergkamp, les Thierry Henry, tu as côtoyé des mecs, des attaquants exceptionnels.
Agüero, c'est top 20 de l'histoire. Hein,
oui, oui, cité. Non, bien sûr.
Ouais, mais Kun, ce qui était déroutant avec lui, c'était qu'en fait, forcément, il y a du travail, mais il était. Ce qui était déroutant, c'est qu'en fait, il s'entraînait, il mettait son chapeau, il court pas. Je me rappelle un but qu'il marque, il est remplaçant contre United à United et il s'échauffe pas. On est tous les trois, il y a l'escouade avec moi et on regarde, on dit, mais s'il rentre, il est mort, quoi. Il fait rien, le mec, ça fait 20 minutes, il fait rien. Premier ballon qu'il touche, tu dois t'en rappeler, Walid, il prend le ballon sur la gauche, il rentre intérieur, feinte de frappe, le joueur, il se couche par terre, feinte de frappe, il se couche par terre, dans la surface, feinte de frappe, il se couche à terre et il met une frappe pleine lucarne. Et tu dis, en fait, ces mecs-là, talent pur, mais tu vois, c'est agressif, tu vois, quand ils ont le ballon, tout ce qu'ils font, c'est rapide. Parce qu'en fait, tu as des joueurs qui sont très bons techniquement, qui vont te faire des gestes techniques, arrêter. Mais c'est des mecs un peu comme R9, tu vois, qui font tout très bien et très vite. Et ça, c'est très rare, en fait.
Pause. C'est intéressant. Dans un instant. Une génération, en plus. On a grandi avec ces joueurs.
Il y a un sachet de popcorn qui arrive, là?
On enchaîne. Il reste encore un quart d'heure. On fait une pause rapidement et on a encore des questions à te poser. Gaël Clichy est dans Génération After avec Kevin, Jimmy et Walid. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, Walid Acharchour et Jimmy Brown. Il nous reste 6 minutes et toujours avec Gaël Clichy, notre invité ce soir. Gaël, on perd pas de temps. Quel est l'adversaire, l'individu, qui t'a posé le plus de problèmes dans ta carrière?
Alors encore,
le mec, c'est un traumatisme.
Alors pour notre auditeur, c'est pas Messi Ronaldo, même si c'était dur, c'était Sean Wright Phillips.
Ah ouais,
oui. Incroyable.
Et lui, c'est ici.
La vitesse.
Quand il était à City et à Chelsea, ben moi, ma qualité, c'était toujours l'anticipation, la vivacité. Et lui, c'était la même chose. Il était plus petit que moi, centre de gravité très bas. Et puis, c'est ce type de joueur, en fait. Il a pas de circuit préférentiel, mais il a beaucoup les contres, à son avantage. Et du coup, c'était horrible parce qu'il partait dans le dos, ça rebondissait partout, il allait vite. Donc lui, ça a été toujours très compliqué.
Je le prenais à FIFA, moi.
Ah, mais c'est la finition à la hauteur de ses capacités à éliminer, etc. Ça aurait été.
Parce qu'à la fin, il a floppé, ouais.
Gaël, le joueur le plus feignant qui a fait la plus grande carrière.
Oh.
Ça n'existe pas, ça?
Non, j'utilise ma carte Joker, là.
Ça n'existe pas?
Non, parce qu'en fait.
Un mec qui n'est pas à l'entraînement à Nantes, mais qui a fait une grande carrière
déjà,
quand même.
Déjà,
Balotelli?
Ah oui, j'ai connu Mario, toi.
Déjà, pour faire une carrière en National et en Ligue 2, c'est que déjà, t'as quelque chose, et donc, en fait, je veux pas. Mais ouais, c'est le bon nom, peut-être. Ouais, Balotelli. Mais c'est même pas la feignantise, c'est juste de.
Il a pas exploité son talent.
De la bêtise,
quoi.
Ouais, c'est de la bêtise.
Ah ouais.
De la bêtise. Ouais, Balotelli, peut-être.
La bêtise hors terrain, discipline, quoi, c'est
ouais,
ça,
après,
quoi.
Il se perdait un peu. Tu regardes le background et tu peux comprendre.
Oui, l'histoire,
ça
la vie.
Mais c'est avec les qualités qu'il avait, tu te dis, c'est dommage, quoi. C'est dommage, ouais.
Le coach? C'est quoi le coach?
On l'a fait le coach ou pas? Non, on l'a pas fait.
Le coach?
Le meilleur coach?
T'as connu Wenger, Mancini, Pellegrini, Guardiola. Ah bah
c'est le coach, ça peut être que Arsène, parce que c'est lui qui me révèle. Ouais. Tu vois. Non, en fait, c'est lui qui me révèle, et ça, il faut toujours être respectueux.
C'est le mentor.
De ça.
C'est le mentor.
Voilà. Mais c'est vrai que, en 10 mois, vraiment, parce qu'une saison, c'est même pas 12 mois, c'est 10 mois, Pep, en fait, il a pris mes connaissances, le monde football que j'avais en tête. Et il a juste retourné.
Mais t'as réappris à jouer au foot, t'as dit, c'est ça, quoi.
Clairement.
C'est un peu le même discours que Thierry Henry.
Ouais.
C'est-à-dire que, mais il faut, c'est ce que je disais la semaine dernière. Bon, on parlait de Kylian Mbappé, de sa nouvelle carrière qui va débuter peut-être avec Xavi Alonso. Mais faut être capable aussi, comme joueur, de vider ton logiciel et d'être prêt à l'apprentissage, tu vois.
Ouais.
Alors que t'es un joueur d'expérience qui a gagné des titres.
C'est une bonne question. T'as réussi à appliquer tout de suite ce qu'il te demandait, Guardiola?
Tout de suite, parce que moi, je suis jamais considéré comme un joueur talentueux. Par contre, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui devait apprendre. Et aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, je vais pas te dire que je vais choisir un joueur qui a envie d'apprendre plus qu'un joueur qui a de la qualité, parce que la qualité te fait gagner des matchs, on est d'accord. Mais finalement, un joueur qui a cette volonté et cette endurance dans l'effort d'apprentissage, tu peux faire ce que tu veux de ce joueur, et ce joueur peut devenir.
T'avais pas la pression de dingue, parce que quand il arrive, on parle de la grande lessiveuse où il veut virer tout le monde, etc. Parce que vous avez une saison un peu plus compliquée avec Pellegrini, et finalement il le fait l'année d'après. Est-ce que toi, dans cette saison-là, tu te dis purée, je vais être dans les mecs qui vont sauter?
Non, parce que moi je sais qu'il y avait un rapport avec Pep, puisque j'avais joué avec lui à Arsenal, et je sais qu'il appréciait mon profil.
D'accord.
Ça veut pas dire qu'il m'a gardé pour le coup, parce que je fais partie de ce grand ménage. Mais ce que je veux dire, c'est que ces types de coach, c'est pour ça qu'en fait on parle sur Kylian ou ses top joueurs, ces types de coachs, ils sont dans la perfection. Et la perfection, c'est toutes les phases du jeu possession, hors possession.
C'est un vrai malade.
Et lui, c'est les détails, c'est juste incroyable en fait, tu vois. Il laisse rien au hasard et c'est ce qui est beau. Moi, c'est quand je t'ai dit que j'ai voulu devenir entraîneur à ses côtés. Bien entendu, j'ai envie de gagner la Ligue des Champions, j'ai envie de tout faire, mais c'est parce qu'en fait, la manière dont il se comporte au quotidien, c'est incroyable.
Et l'équipe la plus forte que tu as affrontée?
C'est son Barcelone quand il rafle tout, quoi. Je me rappelle, on est à l'Emirates, 25 minutes de jeu, et Abu Dhabi, le ballon sort en touche. Abu, il me regarde, je vois, il est mort. Et il me regarde, il me dit, Gaël, on va faire comment? Je dis, on va courir, mec. Et avec ça, tu pouvais rien faire contre ces mecs-là, tu vois. C'était avec un Messi extraordinaire, avec un milieu qui dominait tout.
Parce qu'en plus, vous les jouiez tout le temps en huitième de finale.
Tout le temps,
le baby Barça contre
C'est ça. Et c'était pour moi la meilleure équipe contre qui
trop
j'ai joué.
Fort.
Ouais, trop fort.
Moi, Gaël, je voulais t'entendre quand même sur. Moi, je suivais beaucoup avec Arsenal, avec City, etc. J'ai jamais compris. Alors évidemment, t'as pas eu de chance quand tu vois aujourd'hui la concurrence au poste de latéral. Je pense que tu serais titulaire tous les jours en équipe de France. Est-ce que c'est une frustration pour toi de pas avoir fait plus en équipe de France?
Non.
T'as
non,
fait 2010 Coupe du Monde Euro 2012.
Il y avait Abidal devant toi.
Ouais, c'est exactement ça en fait. Et des fois, moi, j'aime pas me cacher derrière les choses. Et c'est vrai que je pense qu'il y a certains moments où j'étais peut-être plus performant qu'eux, mais en fait, dans la période où j'étais à Arsenal, eux, ils sont peut-être au même niveau que moi. Pour certaines personnes, meilleurs. J'ai pas de mal à dire qu'ils étaient peut-être meilleurs, mais c'est surtout qu'en fait, ils gagnaient des trophées, ils jouaient dans les deux meilleures équipes qu'il y avait en Europe. Et puis, c'est deux joueurs exceptionnels. Donc, en fait, du regret. Tu ne peux qu'avoir du regret quand tu fais des choses qui vont à l'encontre de ton talent et de ce que tu pourrais éventuellement donner. Moi, j'ai toujours tout fait pour être le meilleur. Après, il y a des rencontres avec des coachs. Je pense qu'en sélection, il y a eu un moment où j'ai senti que je pouvais pousser. Ça s'est pas fait parce que ça s'est pas fait.
Avec qui?
Pas de regret. Je pense que sur la fin, quand je gagne ma place, par exemple, contre le championnat d'Europe en Ukraine,
à l'Euro, ouais
je pense qu'en fait, voilà, je décide de quitter Arsenal, qui est mon club un peu de cœur. Donc c'est une vraie décision. Et puis j'ai de la chance parce qu'avec Samir, on va et on part. Et la première année, on gagne le titre. Je gagne ma place au championnat d'Europe. Et donc dans ma tête, je me dis bon, il y a peut-être quelque chose qui vient de se créer. Il y a une bascule qui vient d'être opérée. Et puis au final, en fait, rapidement, je me rends compte que le nouveau sélectionneur va repartir sur quelque chose de plus classique. Et c'est comme ça, je peux pas, on parle pas de joueurs lambda, on parle de deux joueurs
United,
qui ont été.
Barça.
Voilà, pour moi, je pense qu'Ashley Cole était le meilleur sur la décennie où on est dans ce duel. Mais je pense que Eric et Patrick, c'est un, et puis après, ils sont deux et deux bis, quoi.
Gaël, terminé. Merci, on s'est régalé.
Merci, Gaël.
Merci, Gaël. Évidemment, je finis par ce message.
On va continuer au kebab à côté, bien évidemment.
Ce message sur WhatsApp de Martin qui dit: quel plaisir d'écouter Gaël, il est monté dans mon taxi il y a 15 ans, c'est déjà une science du football. Donc tu peux saluer Martin.
Ouais, vas-y, envoie-moi un DM et puis on discute.
Il y a eu un petit pourboire ou pas au taxi ou pas? Généreux, un peu Gaël.
Ça va être dur, il faut que Martin réagisse très vite sur WhatsApp.
Déjà,
merci encore une fois Gaël. Merci Jimmy, merci Gaël, Kevin, salut, Walid. Gaël. Rendez-vous à tous demain soir à 20h.
On peut pas le ramener un peu plus souvent, Gaël?
Bien sûr que si, ouais, bah, évidemment, c'est okay, un régal.
D'accord, ce serait pas mal.
Dans un instant. On a parlé de la carrière, mais il y a la nouvelle carrière, les gars.
Ah bah oui, c'est ça.
On en a parlé un peu, mais on pourra en parler plus encore. L'after dans un instant, qui arrive jusqu'à minuit comme tous les soirs. Bye bye.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.